Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Belgique à Spa. C'était la rentrée ce week-end en F1 et comme chaque rentrée, il y a les petits nouveaux qui ont toujours peur de commencer. Il y a les trublions qui font tout ce qu'il faut pour se faire voir. Et comme d'habitude, il y a les redoublants et les premiers de la classe qui eux commencent toujours avec de beaux 20 sur 20. Pour m'accompagner, comme d'habitude, il est là. Bonjour Dino.
Bonjour Shinji.
Ça va? Tu as passé de bonnes vacances F1-esque puisque c'était les vacances de la F1.
Oui, ouais. Ah, sur fin d'effort, on n'était pas vraiment en vacances.
La F1 ne dort jamais.
C'est vrai.
Et cette semaine, nous avons plus qu'un guest.
Oui. Nous avons un réfugié politique. Quelqu'un imaginé qui est sans gouvernement depuis exactement 440 jours.
En même temps, nous on en a un, c'est pas forcément mieux.
Oui, c'est vrai. Cet homme fait partie d'un pays qui a battu l'Irak, mais on ne sait pas dans quoi. En même temps, ils ont réussi là où les Américains ont échoué. C'est magnifique. Puisque c'est un Belge, vous l'aurez deviné. On ne pouvait pas faire une émission sur la Belgique sans avoir un cousin belge. Et c'est pas n'importe quel Belge, c'est peut-être le meilleur. Après,
c'est le Belge.
Voilà, c'est le Belge. Hein. Le mec à la frite.
le plus grand belge après Tintin.
Puisque c'est Ben qui est l'auteur de la rubrique Pit Stop, que vous avez d'ailleurs pu lire aujourd'hui, mais il y a 3 jours quand vous écoutez l'émission. Bonjour Ben.
Bonjour Ben. Bonjour, bonjour.
D'Afrique.
On a battu l'Irak pour le record nombre de jours sans gouvernement.
Oui,
c'est
bravo.
Je suis donc un recordman du monde, voilà. Un petit peu, à ma modeste façon.
Oh, t'as l'air fier.
Bah, je trouve que c'est un record finalement bien belge, tu vois. Ça correspond un peu à l'absurde belge, je trouve que c'est pas mal. Moi, ça me fait sourire. Mais...
j'aime bien la notion de record bien belge.
Et oui, c'est le surréalisme, la Belgique. C'est
voilà, c'est ça, c'est un
voilà.
Peu ça.
Alors forcément, comme d'habitude, je vais vous poser la question. Alors là, en plus, on a quelqu'un qui a vécu de près, hein, le Grand Prix.
Oui.
Qu'avez-vous pensé de cette course? Qui, ma foi, après son premier tiers, n'était pas... Alors, je ne vais pas dire chiante, je veux dire, était un peu molle.
Faut savoir qu'on a un peu parlé avant l'émission et que monsieur a osé dire que la course était chiante. Qu'il a dû chercher un autre qualificatif un peu plus passable.
Voilà. Je trouve ça un peu mou, on va dire.
Bah, c'est vrai que il y a eu une partie de course jusqu'à l'accident de Lewis Hamilton qui a été très intéressante, etc. Et après, sans forcément que ce soit lié, parce que c'est pas parce qu'il y avait plus Hamilton qu'il y avait plus d'action en piste, hein, faut pas croire ça non plus. Mais les fans d'Hamilton feront peut-être se résumer, mais je ne m'y risquerai pas. Mais c'est vrai que la deuxième partie de course était beaucoup plus stratégique parce qu'il y avait des gros problèmes, enfin des grosses inquiétudes sur les pneus. Mais j'ai pas forcément trouvé ça moins intéressant. Au contraire, ça faisait une bonne course à la stratégie, sachant qu'on avait eu une autre lot d'action en début de course, donc c'était pas génial.
Ouais.
Non, c'est vrai qu'il y a, enfin, le début de course a quand même été, il y a eu de la bagarre un peu partout, et qu'après, forcément, ça a été un peu plus mou. Déjà, Vettel est repassé devant. Ça aide, hein, pour avoir un rempart un peu moins passionnant. Mais sinon, derrière, il y a quand même eu de belles bagarres. Il y a Button qui a fait une chouette remontée, et puis, tout en fin de course, Schumacher sur Rosberg, ça a mis de l'ambiance autour du circuit.
Oh, il dit Schumacher!
Oui, j'y ai pensé en 10 ans. Hein.
C'est spécial Belgique, il a le droit de parler français comme il veut.
Voilà. Et puis D'Ambrosio dit Schumacher aussi, donc voilà. Je...
Ah bah si D'Ambrosio dit Schumacher.
Voilà. Mais c'est vrai que le début de course, j'ai encore regardé le dépassement de Weber sur Alonso, c'est quand même pas mal.
Et donc hier, nous enregistrons lundi, nous étions le 28 août.
Oui, oh non.
Eh oui.
Ah c'était bien ces vacances, merde.
C'est le moment de l'émission, on va boire un café, c'est ça?
Oui, voilà. On fait semblant d'écouter, on dit « Ah ouais, oh, intéressant !» Puis...
Vous êtes méchants, rien que pour ça, ça ne sera même pas une spéciale Belgique.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
Nous étions donc le 28 août, qui, sachez-le, dans le calendrier républicain français, était le jour de la pastèque. Donc c'est un peu en retard que je souhaite une bonne fête à toutes les pastèques. Il y a bien longtemps, le 28 août 476, une date importante dans l'histoire, puisque c'est la déposition et l'exécution du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule.
Allez, un bon nom pourri celui-là.
Ouais. Et donc, date un peu importante dans l'histoire, parce que c'est une des dates, en fait, qui est retenue quand on veut séparer un peu l'Antiquité du Moyen-Âge.
Oui.
Voilà. Et donc, le 29 août 476, les gens se sont dit « Ah, cool, on est dans le Moyen-Âge. » proche de nous en 1592, c'est la naissance de Georges Villiers, qui n'a rien à voir avec Philippe de Villiers. Premier puis duc de Buckingham. En fait, c'est le fameux duc de Buckingham des Trois Mousquetaires.
Je sais pas si j'ai jamais lu les Trois Mousquetaires.
T'as au moins regardé un film des Trois Mousquetaires?
Non. Ah non, moi je regardais, c'était Albert, le quatrième mousquetaire.
Ah, il y a le personnage du duc de Buckingham qui est inspiré d'une personne réelle. Et donc, c'est ce duc de Buckingham-là. C'est pas de ma faute si t'as pas de culture, Dino.
Enfin, demande à Benoît, par exemple.
À Benoît, est-ce que tu savais qui était le duc de Buckingham?
Pas du tout. En tout cas, au moins dans moi, le seul film avec les Trois Mousquetaires que j'ai vu, c'est La Fuite d'Artagnan. Donc, tu vois.
Tu
niveau culture, bien aussi, quoi. Tu vois.
T'as deux grosses merguez là-dedans.
Mais il est belge, lui, il a une excuse.
Ouais, c'est bon, il est belge, il a une culture francophone, il va pas se mettre non plus à lire que les auteurs belges sur la victoire.
Le 28 août 1749, c'est la naissance d'un grand homme de lettres, Johann Wolfgang von Goethe, dont on dit souvent quand on parle de l'allemand, on sait que le français on dit que c'est la langue de Molière, l'anglais la langue de Shakespeare, et ben l'allemand souvent on dit c'est la langue de Goethe.
D'ailleurs c'est faux de dire que le français c'est la langue de Molière.
C'est vrai.
C'est la langue de Rabelais. Désolé. C'est Rabelais qui a commencé à parler français le premier. Merde.
Plus proche de nous, au XXe siècle, en 1917, c'est la naissance de Jack Kirby. Est-ce que vous savez qui est Jack Kirby?
Ça me dit quelque chose, mais je serai incapable de dire présent.
Voilà. Et toi? Comme je suis belge, je n'ai évidemment aucune culture, donc je ne sais pas non plus. Voilà.
Ah, attends, c'est le pays de plastique Bertrand, Danny Cordy, c'est bon. Il y a quand même un petit peu de culture.
Cordy, ah ouais, non, Cordy, ça me dit quelque chose.
Eh bien, Jack Kirby est un auteur de comics américain, surnommé d'ailleurs The King of Comics, parce qu'on parle souvent de Stan Lee, mais il n'a pas été tout seul à créer des super-héros. Alors, faut savoir que Jack Kirby, il est à l'origine de Captain America, des 4 Fantastiques, de Hulk, des X-Men, de Thor, du Surfeur d'Argent. C'est un très grand nom du comics américain.
Ouais, mais il a jamais fait Batman.
Ah non, parce que Batman, c'est plus vieux.
Ah, voilà.
Puis les adaptations cinématographiques de son œuvre sont un peu toutes pourries. À part X-Men qui s'en sort, et les 4 Fantastiques.
Plus proche de nous, c'était en 1962. Et là, quand même, on va voir. C'est la naissance de David Fincher. Vous savez quand même qui est David Fincher?
Oui, le réalisateur.
Oui, bah c'est celui-là. Ouais, c'est bien,
ah ouais.
Et oui, David Fincher, bon, c'est Alien 3, c'est Seven, c'est Fight Club.
Zodiac, dernièrement, non? C'est pas lui qui a fait
Zodiac? Oui, c'est aussi L'étrange histoire de Benjamin Button et The Social Network.
Ah oui, L'étrange histoire de Benjamin Button, ce DVD, ce Blu-ray pourri qui a fait sauter ma PS3, saloperie. Je hais ce film.
Alors, il préparerait notamment l'adaptation de Millennium aux États-Unis.
Ils ont déjà fait des films Millennium.
Oui, mais c'était des films suédois, là, ou norvégiens. Une année plus tard, en 1963, une grande date de l'histoire contemporaine américaine, c'est la fameuse date du discours de Martin Luther King, I Have a Dream, devant le Lincoln Memorial, si je ne me trompe pas, à Washington.
Ouais.
Grande date de l'histoire américaine. En 1971, plus proche de nous, celui-là, vous n'allez pas le trouver.
Ouais, alors le défi, vas-y, essaye.
D'accord. Donc, en 1971, naissait Johann Sfar, Dino. Qui est Johann Sfar?
Alors, Johann Sfar, c'est un... Je dis pas de bêtises, c'est pas le réalisateur de... Non, il a fait des BD aussi, mais je crois qu'il a réalisé... Merde, Gainsbourg, non?
Exactement, il a fait Gainsbourg, héroïque. Il a fait aussi Le Chat du Rabbin.
Voilà.
Et t'arrêtes de le dire, avant d'être réalisateur, il est même encore scénariste.
Oui, parce que là, il sort une bande dessinée, justement, qu'il va lui-même adapter en film, je crois, après. Alors, par contre, le titre, je l'ai plus du tout en tête.
Alors, parmi ces titres connus, alors c'est vrai qu'il y a Le Chat du Rabbin, il y a Chagall en Russie, je sais pas si c'est peut-être ça, parce que c'est une des les plus récentes. Voilà, il a aussi travaillé sur Petit Vampire, sur Donjon, qui est une série de BD à la fois humoristique et d'heroic fantasy, mais surtout humoristique. C'était bien, tu vois, comme quoi qu'on te pousse.
Ah non, mais t'as vu, ouais, oh. Bon, le belge, il dit rien, mais le français, il est super balèze. Parce qu'il a de la culture.
Et alors, en fête internationale, il n'y a pas de grande fête internationale de l'ONU. Par contre, c'est à Hong Kong le jour de la libération. Libération de quoi, je ne sais pas. Mais ils se sont libérés de quelque chose ce jour-là.
C'est le jour des impôts. Allez, maintenant que t'es content, va falloir qu'on réveille Ben.
Quoi, c'est
alors,
fini?
Et non, maintenant il y a la partie F1.
Ah ouais, enfin, c'est la partie, oui.
Oui, c'est la partie.
Et
mais continuez,
En ce 28, on va pas fêter, on va pas célébrer. on va plutôt penser à un pilote, puisque c'était un jour de décès, malheureusement.
Oh, on peut lui faire sa fête, quand même.
C'était en 2008. Et savez-vous qui est décédé le 28 août 2008?
2008? C'est après Massa, ça.
Oui. Enfin, Massa
non,
n'est
mais,
pas mort.
Non, mais, enfin, c'est après l'accident de Massa. Auditeurs.
Oui.
Non, mais c'est comme ça, du coup, c'est pas Henri Surti.
Non, je serais pas allé jusqu'à parler de la mort d'Henri Surti, quand même. Non.
Là, t'as le droit de participer, Benoît.
Ouais, non, je réfléchis, mais,
Alors, je précise quand même qu'il est mort à 81 ans.
81 ans?
Il est né en 1927.
C'est pas un truc, non, c'est l'année dernière qu'il est mort, Swatter et compagnie. C'est un ancien pilote.
Oui, Swatter, c'est fin de l'année dernière.
C'est un ancien pilote.
Voilà.
Et c'est même un champion du monde.
Merde.
Un champion du monde.
Un champion du monde qui est mort en août 2008.
Je donnerais même un autre indice. C'est l'autre.
Phil Hill.
Exactement. C'est Phil Hill. Il nous quittait. C'est vrai qu'on
Putain, la vache, comment c'est passé. Enfin, c'est pas passé inaperçu.
Non,
mais,
non, mais c'est
mémoires,
vrai.
C'est pas resté, quoi.
C'est pas resté. Or, Phil Hill, c'est quand même le premier pilote champion. Déjà, premier pilote américain champion du monde.
Oui.
Et premier pilote champion du monde sur Ferrari. Le premier titre de Ferrari. C'est en 1961, date où Phil Hill est devenu champion du monde.
Ils n'ont pas eu des titres avant Ferrari.
Si, hein, ils ont été champions avec Fangio déjà.
Oui, mais pas en titre constructeur.
Ah,
en titre constructeur, tu parles, d'accord.
Non, oui.
En titre pilote.
Ah non, en titre pilote, oui, t'as raison, bien sûr.
Attends, j'ai peur.
Bah, non, oui, bien sûr.
T'as caché des trucs sur mon équipe préférée.
Alors, Dino, je te demande, toi qui a parfois du nez, d'après toi, de quoi allons-nous nous parler d'ailleurs? C'est un petit jeu cette semaine. Donc, j'espère que vous allez être super fort.
Vu comment tu présentes, on va sans doute pas parler de Phil Hill.
Bah finalement pas beaucoup non.
Les pilotes américains en F1?
Non, plus simple, je te dis, ça peut être très facile cette semaine.
Les pilotes champions avec Ferrari?
Non, ça pourrait être intéressant, mais...
Oh, j'ai eu chaud, j'ai eu peur. c'est le genre de truc où j'ai pas le droit de me gourer.
Qu'est-ce que j'ai dit sur Phil Hill?
C'était le premier pilote américain champion du monde.
Oui, et quoi d'autre?
Que c'était le premier pilote champion constructeur avec Ferrari. Ah,
voilà, et que c'était le premier titre...
Ferrari en tant que constructeur.
Voilà. Donc, ce que je vous propose, cette semaine, c'est de me retrouver les champions du monde constructeurs.
Oh la vache.
En quelle année ils ont eu leur premier titre? attends, et sérieux, il y en a certains, normalement, c'est quand même très facile, hein.
World GP, 2009.
Voilà. Et bien évidemment, avec qui? Parce qu'il faut savoir que les premiers titres constructeurs ont toujours été accompagnés, du titre pilote.
Ah, d'accord.
Hein, ça a toujours été... Il y a jamais eu un premier titre constructeur avec un pilote d'une autre équipe.
Bon, allez, à toi l'honneur, Ben.
J'ai noté, alors moi je pourrais les dire, hein, mais si vous êtes très fort, n'hésitez pas à le dire. J'ai noté les premières années de chaque équipe pour voir un peu la différence entre leur début et au bout de combien d'années ils ont eu leur premier titre.
Une question bonus, on n'est pas obligé de répondre.
Non.
Comment tu lui fais peur?
Moi je les ai les réponses.
Attends, il est belge, adapte le niveau, j'ai dit.
Donc, Ferrari 1961, hein, donc avec Phil Hill. Et donc, tu disais, bah, Brawn, forcément. Pour ça, je te dis, il y a une partie des réponses qui est facile. Avec donc Button.
Ouais.
C'était en 2009. Et bien évidemment, ils ont commencé en 2009.
Tout à fait.
Et ils ont fini en 2009.
tout à fait.
Bah, Vettel avec Red Bull l'année dernière déjà aussi.
Tout à fait, Red Bull.
Qui avait Schumacher en 94 avec Benetton.
Exactement. Benetton qui avait commencé en 86.
Mais Red Bull, ils ont commencé en 2005, non?
2005, ouais. Ils ont mis 5 ans.
Williams avec Jones.
Exactement.
En 81.
En 80.
Ah, en 80, ouais. Et alors quant à l'année de début, enfin, je sais pas, c'est eu plusieurs Williams.
Alors ouais, c'est compliqué avec Williams. Si on prend vraiment l'entité qui existe encore aujourd'hui.
72, 73.
C'est 75. Mais ils ont commencé plus tôt. Hein. Il y a eu des Williams avant Williams. En effet, c'est 72, 73.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre 90 avec Benetton.
Ah ça, il l'a dit.
Oui, non, mais c'est pour ça que je fais par décennie. Dans les années 80, McLaren, ils avaient déjà été champions du monde des constructeurs avant.
Oh oui.
Ah, à l'époque de Stewart. Bon, Stewart, il a dû en faire beaucoup, ça. Tyrrell, non? Avec Stewart?
Alors, Tyrrell, en effet, en 71. Et l'équipe datait de 70. Mais il y a une raison. Parce que Stewart, il n'a pas été titré qu'avec Tyrrell.
Titré avec Matra, non?
Avec Matra. Aussi, le seul titre de Matra en 69. Et en fait, Matra avait 2 ans. Ça datait de 67.
Dans les 70, est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y en a un autre. C'est pas une petite équipe, en plus, hein.
Pas McLaren. McLaren, ils ont été titrés avant.
Bah, si.
Ah bon, c'est McLaren.
McLaren en 1974, l'équipe datée de 66.
Même pas avant, même pas à l'époque de...
Ah non, même McLaren, ils ont traîné...
Allez, nuls, les...
Ah, mais c'était avec qui?
Bah, 74, c'est Fittipaldi.
Ah, voilà! Et non, je vais vous mettre la reine, c'est 74.
Bah, sinon, avant ça, il y avait Lotus.
Ouais.
Avec Jim Clark.
Exactement, quelle année?
62.
61, non?
63. Pas très loin. 63. Et Lotus date de 58. Et vous en avez oublié un entre Lotus et Matra.
Matra, c'était en 63 et?
63, c'est Lotus, et Matra, c'est 69.
Brabham.
Brabham avec
Jacques Brabham.
Avec 66. Brabham. Et les curés avaient commencé en 62. Donc là, vous êtes remontés jusqu'en 63, les gars.
Après, avant, il y a Van Vol, 59, 60.
T'es pas très loin, mais c'est plus tôt. Mais en même temps, c'est facile. Hein.
C'est le premier championnat, quoi.
C'est le premier, voilà.
58.
58 avec
Van Vol, ça devait être 58. Ah merde, je vois le mec Osorn.
C'est Osorn sur Van Vol. D'ailleurs, je crois que on en avait parlé au SAV.
Il a été
champion et puis il a arrêté, mais il s'est tué après.
Voilà.
Et l'écurie datait de 54. Il vous en manque. Alors bon, Ferrari, vous l'avez trouvé. Deux.
BRM.
Exactement.
Avec BRM, ça serait avec Brabham.
Pas Brabham.
Graham Hill.
Avec Graham Hill. Et BRM, ça datait de 51. Et il manque le champion du monde 59.
59, c'est Brabham.
C'est sur une Cooper, non?
Exactement, ouais. Une Cooper. Et les premières Cooper datent de 1950.
Oh, la Belgique sauve l'honneur.
Oh, ça va, vous êtes bien décollé.
Non, j'ai bon, j'ai trouvé celui de 66 aussi, non? Ou 65, je sais même plus d'ailleurs maintenant, tiens.
Ah, j'y pense, on en a oublié un récent en plus.
La Renault.
Oui.
Oui, avec
Alonso en 2004,
cinq.
En 2005.
2005. Ouais. Ah, c'est pareil, Renault, c'est...
Ouais, c'est pareil, il y a deux débuts, quoi. C'est 2002, je crois, ils sont revenus officiellement avec
le... Alors, 2002, ouais. C'est avec leur nom. 2001, c'est... Ils rachetaient, c'était encore Benetton, mais ils avaient racheté l'équipe. Et puis sinon, c'est 77. Non, ça va, franchement, vous avez été bon.
Ouais, arrête, hein. Enfin, j'ai été bon, et puis, Benoît...
J'ai rempli les trous, tu vois. J'ai fait un Joker de luxe.
D'ailleurs, après le passé, nous allons passer à aujourd'hui.
Oui.
Nous allons passer à l'actualité.
Merde.
Le podium avec ses 12 marches.
Non, il y en a pas 12, c'est pas vrai.
Il y en a que 4.
Oh non, il y en a 5. Ah là, mais attention, il y a aussi eu un mois de pause, voilà, il y a eu beaucoup de news quand même, ça, on n'était pas non plus franchement ennuyé, il y a eu pas mal de petites choses à se mettre sous la dent, et ce qui est même rigolo, c'est qu'en dehors de ce podium, il y a même des actus assez récentes qui sont pas dans le podium, mais qu'on va sans doute devoir, sur lesquelles on va sans doute devoir revenir. Donc, j'en ai retenu 5 parce qu'il y en a certaines où on va sans doute aller relativement vite parce qu'on s'est soit déjà prononcé dessus, soit qu'elles s'entrecoupent. Et donc, en cinquième position, des articles les plus lus depuis la dernière émission, il y a un mois tout juste, il y avait un article d'il y a quelques semaines d'ailleurs, qui ouvrait un petit peu toute la séquence spéciale Lotus Renault Grand Prix, qui s'intitulait, donc cet article, « Grosjean pourrait remplacer Heidfeld à Singapour ». Voilà, parce que à l'époque, il était encore juste question que Senna fasse les vendredis matins en Belgique et en Italie, et que Grosjean fasse des samedis matins d'ici la fin de saison, notamment à Singapour. Et là, oh, qu'est-ce qui est arrivé entre-temps ? Heidfeld s'est fait débarquer, même s'il était encore là.
Et alors, est-ce qu'il y a d'autres actus sur Heidfeld ou pas du tout ?
Non.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Oui, parce que j'en ai marre de cette chialeuse, parce que vous avez vu, c'est pour ça que je t'ai demandé s'il y avait d'autres actus qui pourraient rentrer. Il veut carrément aller en justice face à Renault pour licenciement abusif. Il a pas mal craché, on va dire, sur Senna, en disant que son baquet était dû que pour le fric. Bon, c'est vrai qu'il a pas mal de... Bon, sur ce point-là, il a pas complètement tort.
C'est pas nécessairement faux.
Ah, c'est pas nécessairement faux.
Non, oui, c'est même... Enfin, il est là aussi, voilà, pour ça, parce que l'air de rien, il y a quand même beaucoup de rumeurs, même si c'est souvent démenti très rapidement, sur l'état financier de l'écurie, qui n'est pas forcément au beau fixe.
Oui.
Et
bah, c'est pas fait pour rassurer ça.
Senna apporte quand même de l'argent, même si derrière, en tout cas en qualif, il a quand même fait aussi bien qu'à Heidfeld sur l'ensemble de ses grands prix, ses 11 premiers grands prix, c'est-à-dire que non seulement il rentre dans le top 10, et en plus il devance Petrov. Donc sur la qualif, il justifie sa titularisation.
Ah, carrément, oui. Bon voilà, alors après ça veut rien dire, hein. C'est que comme je l'ai dit sur le site, il faut pas non plus juger Senna sur une seule course, que ce soit en mal après les essais libres 1 où il se cartonne, ou que ce soit en bien après les qualifications. Faut attendre plusieurs courses.
Voilà. Mais c'est clair, mais la première impression, a priori, en tout cas surtout après les qualifs, il en a quand même surpris plus d'un. Et voilà, donc la première impression reste bonne. Maintenant, il va falloir confirmer, voire même faire mieux en course, où bon, il a quand même fait...
Ça sera pas nécessairement dur.
Voilà. Oui. Alguer Soiry avait un grand sourire après, mais... Voilà.
Mais voilà, Etuel m'a énervé parce que bon, en effet, il a sous-entendu quasiment, enfin voilà, que Senna était voilà. Puis même, enfin, c'est par rapport à ce qu'il dit, alors que finalement, quand tu vois ce qu'il a fait cette saison, je vais pas dire qu'il a rien fait, mais quasiment tous les objectifs pour lesquels on l'a embauché, il était là pour aider Petrov, pour être un leader même de secours, mais quelqu'un justement pour mener l'équipe. Au lieu de ça, en qualif, il a quasiment tout le temps été dominé par Petrov et il a pas forcément fait beaucoup mieux en course.
Voilà,
il était là aussi pour ses talents de mise au point, hein, qui ont tellement été bons que aujourd'hui Renault est quand même pas bien derrière, mais est derrière Mercedes. Donc voilà, ça m'a agacé, ce comportement de pleureuse d'Hedfeld.
Mais c'est vrai que, enfin, on l'a vu parader un peu tout le week-end. Enfin, parader. On l'a aperçu plusieurs fois dans le paddock avec sa veste officielle, sachant qu'il est en conflit avec son équipe, ça va être quelque chose d'un peu risible. Maintenant, c'est vrai que sur le fond, son contrat stipule qu'il doit dégager seulement si Kubica revient. Or, Kubica n'est pas encore prêt de revenir. S'il revient un jour, donc voilà. Donc sur le fond, voilà. Derrière, je crois que le plus gros reproche qu'on peut faire à Hedfeld, c'est son manque de charisme au sein de l'équipe. Il a pas su s'imposer comme leader. Bah, là où Kubica ou dans d'autres équipes, quelqu'un comme Alonso fédère véritablement l'équipe autour d'eux, et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce que lui a pas su faire.
Je nuance un petit peu ce que tu dis. Je dis parce que faut quand même rappeler qu'il a un contrat, que ce contrat court à des conditions, et que nous, si dans notre travail on nous vire du jour au lendemain parce que juste on ne plaît pas, ou parce que les gens estiment qu'on fait pas suffisamment bien notre travail, on a aussi cette capacité d'aller devant les prud'hommes pour défendre notre dossier et prouver que moi je veux bien qu'il arrête mon contrat, mais il doit y avoir compensation parce que il m'accuse de telle faute, mais j'ai pas fait ces fautes là, etc. Pour moi, c'est ce que fait.
Je peux comprendre, c'est juste peut-être cette façon de nier le fait qu'il n'avait pas fait un truc terrible, quoi.
Ben, je pense pas qu'il le nie. Je pense que s'il faut oublier, c'est que il a.
Par contre, c'est vrai, hein, un contrat, faut le respecter. Il est de côté, hein, bien sûr.
Il a certainement pas fait la saison qu'on attendait de lui, et etc. Maintenant, faut peut-être aussi se demander si les objectifs qu'on lui a fixés et que tout le monde s'est fixé. Honnêtement, moi, je me rappelle du début de saison, que ce soit l'écurie ou la plupart des gens sur les forums, etc. disaient, je me mens même si on l'a pas dit dans l'émission, on disait oui, ils peuvent viser la victoire, les podiums, etc.
Oui, on l'a dit. Ouais.
Qu'on s'est très vite fait des illusions, que moi je faisais partie de ceux qui pensaient dès le début de saison que le choix de Hedfeld était peut-être pas le meilleur choix, mais que c'était malheureusement la décision d'une équipe qui avait besoin d'un leader. Donc bon, il n'a pas forcément fait grand chose de bien cette saison. En même temps, c'est aussi peut-être parce que certains n'ont pas voulu voir en Hedfeld ce qu'était Hedfeld depuis des années. Je suis désolé, Hedfeld, il a jamais non plus cartonné. Maintenant, sur sa présence en Belgique, il faut revenir un peu sur les événements. C'est que ça a été un petit peu long d'être officialisé l'annonce. La rumeur est apparue lundi dernier. Elle a été officialisée, je crois, jeudi ou mercredi.
Ça a été officialisé mercredi, et une conférence de presse a été organisée le jeudi matin.
Bon, faut quand même revenir sur le fait que entre temps, il y a eu une décision de justice qui est une décision. Alors moi, j'ai traduit ça dans les dépêches. J'ai traduit ça comme un jugement en référé, mais c'est un jugement immédiat qui vise à définir les droits de chacun. Qui a juste dit que Hedfeld avait un contrat et que Renault devait respecter ce contrat, mais qui n'oblige pas en conséquence Renault à respecter ce contrat. Donc il y a une nouvelle audience qui aura lieu entre le Grand Prix d'Italie et le Grand Prix de Singapour, où là le dossier sera réglé. Et le jeu de Nick Hedfeld, c'est justement d'aller en Belgique avec sa panoplie et compagnie, et d'être dans le paddock pour pouvoir dire devant l'audience: écoutez, moi le contrat, je l'ai respecté, j'étais sur place, s'ils avaient besoin de moi, j'étais disponible. C'est eux qui n'ont pas voulu de moi, c'est eux qui rompent le contrat. Donc sur le côté pleureuse, je suis pas vraiment d'accord avec toi, parce qu'on peut pas non plus reprocher à un pilote de vouloir défendre son baquet. Maintenant, c'est vrai que là,
je te dis, hein, c'est pas tant sur le contrat, ça, il a raison de le défendre, que j'avais l'impression que il avait l'air de dire que ce n'était finalement que pour l'argent, et sans finalement se mettre en perspective de la saison qu'il avait fait.
Oui, c'est voilà. Vrai.
Sinon, t'as raison. Par rapport à son contrat, il a raison de le défendre. Ce sera tout sur Hedfeld.
Moi, je pense le profil d'Hedfeld, je pense véritablement c'est un bon pilote numéro 2. Voilà. Enfin, oui. Ici, il a eu quelques soucis avec Lotus, même en course où il a pas forcément assuré. Mais l'image d'Hedfeld sur l'ensemble de sa carrière en F1, c'est ça. C'est un bon pilote numéro 2, un mec qui théoriquement est capable de ramener la voiture à peu près dans n'importe quelle circonstance et d'assurer des points qui peuvent être importants pour un championnat constructeur. Mais c'est pas lui qui va permettre à une équipe de décrocher un titre pilote, par exemple. Moi, pour moi, actuellement, Lotus Renault, il prépare l'année prochaine. Il prépare l'année prochaine avec l'idée que éventuellement Kubica reviendra pas. Donc, dans ce cas-là, au lieu de se retrouver dans la situation comme finalement début de saison, où ils vont se dire ah bah mince, Kubica revient pas, qui on va mettre dans la voiture? Ils donnent de l'expérience à Bruno Senna. Pourquoi pas à Grosjean, même si ce n'est que le vendredi matin.
Et c'est exactement moi ce que j'avais dit sur le site, hein, c'est que il faut aussi maintenant pour cette équipe qui s'est retrouvée un peu comme Ferrari au lendemain de l'accident de Massa, qui Ferrari s'est rendu compte oh mon Dieu on n'a plus que Badoer et gêné, qu'est-ce qu'on va faire, on va appeler Schumacher, c'est pas mieux. C'est un peu le même problème de Lotus Renault, c'est que quand ils sont arrivés au moment de l'accident de Kubica, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on a comme remplaçant, quoi, qu'est-ce qu'on a pour pouvoir remplacer. Ils ont été obligés d'aller chercher Hedfeld. C'est globalement un problème que rencontrent, je pense, toutes les écuries de Formule 1, c'est qu'aujourd'hui elles n'ont plus de pilotes qu'elles peuvent mettre dans un baquet en cas de problème.
On va passer à la quatrième actu.
Alors, la quatrième actu, c'était même pas une actu, c'était une chronique, ah. Je crois que c'était la chronique hors piste d'Axel, qui s'interrogeait sur quel est le meilleur duo de pilotes.
Ah. C'était pas Axel, c'était la mienne.
C'était la tienne.
Oh. C'était la mienne. Oh. C'était la mienne.
On est tellement pas habitués.
Mais non, mais apparemment j'ai cru comprendre que ma chronique paraissait un mauvais jour. C'est pas de bol, statistique.
Le lundi, c'est bien. Voilà, donc c'est la chronique de Ben alors. Donc je vais pas te demander ton opinion.
Vas-y, raconte-toi.
Non, bah, voilà. Si mon opinion, vous retournez lire ma chronique, hein, j'ai envie de dire. Voilà, je refais un peu de pub. Non, mais moi je rebondissais un peu sur les déclarations de je sais même plus quel pilote d'ailleurs qui disait que finalement Hamilton et Button constituaient un bon duo de pilotes parce que ils étaient assez opposés dans leur style de pilotage et que finalement en plus l'ambiance était bonne, donc voilà, ils étaient très complémentaires. Mais je terminais évidemment en expliquant que chacun avait ses opinions là-dessus, que ça dépendait aussi des sensibilités des uns et des autres, et que le but n'était pas du tout de donner un avis tranché sur la question, mais d'apporter certains éléments de réponse.
Les deux n'ont pas été en même temps à la course au titre. Ils n'ont pas été opposés dans une course au titre.
Mais il y avait une illustration qui était franchement très chouette ce week-end. Je crois que c'est samedi après-midi où il s'est mis à pleuvoir. C'était vendredi matin, où il s'est mis à pleuvoir très dru, et donc où les voitures sortaient de temps en temps faire un tour puis rentrer. Et dans le stand McLaren, on voyait les deux pilotes McLaren qui parlaient ensemble, qui parlaient de la piste, etc. Et c'est vrai que c'est des images qu'on voit finalement très très peu.
Non,
et là, du coup, pendant cette séance-là, on l'a vu que chez McLaren. C'est-à-dire qu'il n'y a que chez McLaren qu'on allait débuter, alors que clairement chez Red Bull, on n'a pas l'impression que les deux pilotes se parlent. Chez Mercedes, pas non plus, ça n'a pas non plus l'air d'être le cas, chez Ferrari non plus.
Je pense que Button, il sait tout simplement faire la part des choses entre ce qui se passe en piste, où là, même son équipier est un adversaire, même le premier, et ce qui se passe en dehors. Voilà, une fois qu'il descend de la voiture, pour lui, ce qui s'est passé en piste, c'est passé en piste, et c'est une autre histoire. Donc, par contre, là, l'ambiance ne peut pas dégénérer.
Non, puis il y a une bonne, bon, même si on peut penser, comme t'as dit, que Hamilton est un peu devant en termes de performance pure, il y a une bonne homogénéité, j'ai envie de dire. Chez Ferrari, si Alonso se plante, Massa, on sait qu'il est 3, 4, 5, 6 places derrière. Chez Red Bull, c'est un peu pareil, hein. Cette année, on peut pas dire que Weber fasse des étincelles. C'est vrai que chez McLaren, on a plus l'impression que, si une voiture ne marche pas, l'autre, elle est rarement très très loin.
À l'Hongrie, ça a été le cas, hein. Ça a été l'exemple typique, là, en gros.
Voilà, tout à fait, voilà.
Même ici, Hamilton se plante en course. Button se plante un peu en qualif, il part de loin, mais il assure quand même en course et il finit troisième. Donc,
voilà, tout à fait.
Il assure quand même des gros points.
Parce que c'est vrai que, on parle souvent d'eux, j'ai envie de dire, parce que quand on parle de duo de pilote, on parle souvent d'eux. Mais est-ce que seulement il y a un autre duo de pilote qu'on pourrait considérer comme aussi bien, voire meilleur? Je suis pas sûr, hein, tout simplement.
C'est ça. Encore une fois, je pense que c'est vraiment les personnalités. Et puis, faut pas oublier quand même que chez McLaren, ce sont deux champions, donc des mecs qui ont déjà gagné des titres, dont un qui peut entre guillemets s'estimer chanceux d'avoir eu un titre, même si il écarte pas la possibilité d'aller en chercher un deuxième. Mais faut être honnête, Button peut quand même déjà s'estimer avoir réussi sa carrière en étant champion du monde. Donc voilà, il y a pas cette même tension qu'il y a pu avoir chez Red Bull, où quand les mecs sont arrivés, il y en a aucun qui était champion dans une voiture qui pouvait être championne. J'ai envie de dire, chez McLaren, pour les mecs maintenant, c'est à la limite, c'est que du bonus. Mais après, c'est vrai qu'il faudra regarder dans les plus petites équipes. Il y a des binômes qui ont l'air de bien marcher. Mais là, encore une fois, je pense que c'est des mecs qui arrivent avec des statuts équivalents. Quand on prend par exemple chez Sauber, c'est deux débutants, chacun avec leur style, chacun avec leur envie de progresser. Ils savent très bien que c'est dans leur intérêt commun que de pas se foutre eux sur la gueule pour progresser. Alors que c'est tout à fait le contraire chez Toro Rosso, où au contraire, ils sont éduqués par l'équipe. C'est l'équipe, le jeudi matin, quand t'as vu les pilotes, elle leur donne un coup de taser. Tu vois, clic. Pour leur dire, ce week-end, fais une belle course, clac.
Ouais, non, mais je trouve que la politique de Red Bull par rapport à Toro Rosso est complètement contre-productive, parce que voilà, c'est mettre de la pression, une mauvaise ambiance de travail entre les deux, inutile, alors qu'au contraire, enfin si, évidemment, le but est toujours de battre son équipier, c'est son adversaire principal, c'est lui qui a la même voiture que toi, donc d'office. Mais après, voilà, ici, ils leur font miroiter un contrat Red Bull, machin. Et ils ont Ricciardo qui pousse derrière, enfin.
Alors Dino, la suite.
Alors je vous propose d'en faire deux en même temps, puisque c'est sur le même thème, de faire le deuxième et le troisième.
D'accord.
Puisque je vais même faire un petit jeu. Je vais mettre un bip à la place à la place d'un mot, et vous allez essayer de deviner quel est le thème. Alors le premier, c'est bip dans l'expectative pour 2012, et le deuxième, c'est pour Villeneuve, bip ne mérite pas son titre.
Bah c'est Raikkonen
Genre il pensait qu'on allait pas trouver.
j'ai fait dur.
En même temps, avec Villeneuve c'était difficile de pas trouver, hein.
Donc effectivement, hein, on a encore une fois demandé à Raikkonen apparemment son avenir. Enfin de toute façon, Raikkonen, on lui demande tous les 5 jours qu'est-ce qu'il va faire.
Non mais c'est incroyable pour un type qui entre guillemets n'est plus F1 depuis 2 ans. Dès qu'il dit un mot, tout de suite sur les sites de F1, t'as des trucs. Je veux dire, même souvenez-vous, Hakkinen, quand il est parti, qu'il a dit oui, je pars pour 1 an, il y avait pas ça, quoi.
Oui.
Il n'était pas tout le temps là à dire. Ah oh, ouais, même... vous avez vu Hakkinen, il va revenir. Non.
Honnêtement, enfin, on peut être honnête. Quand on y a une news, enfin tous les sites cherchent les news sur Raikkonen, parce qu'ils savent très bien que Raikkonen a une grosse communauté de fans qui manque à la Formule 1. Ce qui n'était, enfin, je vais pas dire que c'était pas le cas d'Hakkinen, mais Hakkinen, il avait quand même accompli sa carrière, etc. Alors que Raikkonen, il y a toujours ce sentiment que sa carrière est un peu inachevée en Formule 1. Donc, on sait très bien que dès qu'on fait un article, dès qu'il y a une petite news sur Raikkonen, si on peut la sortir, en mettant Raikkonen dans le titre, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont venir la lire, que ça va faire discuter. Il y a eu un débat énorme. Je sais plus combien il y a eu de messages sur la réflexion de Villeneuve. Le pauvre Villeneuve s'en est pris plein la gueule.
Attends, oser dire qu'il ne mérite pas son titre quand on est un pilote qui a gagné le sien parce qu'on roulait dans la voiture la plus performante des années 90 et qu'on n'a jamais rien prouvé d'autre, à tel point que pour rouler, j'ai besoin de fabriquer ma propre écurie, je ne dirai rien d'autre.
Non, mais c'est vrai que c'est surtout ce qui est bête avec Villeneuve, c'est là où se montre pas très intelligent, c'est que bon, faut remettre dans le contexte, il déclare ça aux médias brésiliens, il veut parler de Massa, sauf que le problème c'est qu'on comprend pas pourquoi en parlant de Massa, mais il en vient à dire qu'il mérite pas, surtout pour dire, mais cette phrase mais absolument, enfin absolument débile, de dire que Massa méritait plus le titre que lui en 2007. T'as pas regardé Massa en 2007? Bon d'accord, il était bon, mais Raikkonen a quand même fait largement mieux.
Ouais, donc, bah déjà Massa, il était plus dans la lutte pour le titre dans la dernière course.
Oui, non, voilà.
Et venir à partir de là, s'il y a une année où Massa méritait le titre, c'était en 2008.
Bah, voilà, tout à fait.
Je dirais pas qu'il le méritait plus qu'Hamilton, là, qu'il serait pas là, mais il le méritait.
Mais disons que quitte à le comparer, ça serait plutôt avec Hamilton plutôt que par rapport à Raikkonen.
Et je pense que ce qui l'énerve un petit peu, voilà, c'est de voir que on fait des ponts d'or, quoi que c'est faux, puisque quand on voit que Raikkonen a quand même payé 100 000 $, je crois, chacune des courses qu'il a fait en NASCAR. Mais je pense que ce qui l'énerve, c'est qu'on parle beaucoup plus de Raikkonen finalement que de lui, alors qu'ils ont entre guillemets le même palmarès. Voilà.
Et puis il fait d'autres choses, et bon, sans être non plus le plus grand Alimentissa ni le plus grand pilote de NASCAR, il fait des choses aux résultats intéressants.
Voilà, ouais. Il a marqué des points, ce qui est quand même pas anodin pour un pilote de Formule 1. Ils sont pas forcément nombreux à pouvoir le faire. Kubica de
plus jamais. Je trouve cette année, il fait une très bonne saison en WRC. Hein. C'est bien simple, il ne sort pas. Ça paraît con à dire, hein. Mais par rapport à l'an dernier, mais c'est vrai. L'an dernier, il a perdu plein de points parce qu'il n'arrêtait pas de sortir.
C'est comme Hamilton, il fait des belles courses quand il finit la course.
Et là, cette année, sur toutes les courses de WRC qu'il a fait, il les a terminées. Et à chaque fois, il finit, voilà, entre la 7e, 10e place. Il est quasiment le meilleur des pilotes parmi les pilotes qui font pas toute la saison et qui ne sont pas les pilotes des top teams, on va dire, hein, parce que lui, il est sur une structure privée. Non, c'est pas mal. Franchement, l'évolution qu'il a eue en WRC cette année est vraiment pas mal.
De toute façon, Villeneuve a toujours été un peu une déclaration dans ce genre-là. Moi, je me suis replongé dans certaines déclarations. Quand Button est arrivé chez Barr, il a dit « Oui, je respecterai Button le jour où il sera rapide en piste. » Bah, il a commencé à vite le respecter, de 1. Et en 2010 ou en 2011, il vient dire « Oui, Button est le meilleur pilote sur la pluie, quoi. » Donc, il dit toujours un peu tout et son contraire. Donc, le fait qu'il ait dit, parler à la presse brésilienne, je pense que ça joue effectivement un rôle. Il n'aurait pas tenu le discours à la presse finlandaise.
Et c'est justement ce que j'ai dit sur les commentaires, c'est que il essaye de jouer le Niki Lauda des années 90. Sauf que Niki Lauda, il a la classe, quoi, quand il fait ça. C'est-à-dire que je veux pas défendre à chaque fois Niki Lauda sur tout ce qu'il va dire, mais il a aussi une manière de le dire. Il a un fond et il sait aussi ne pas dépasser les limites. Voilà, il fait rarement des trucs gratos quand il envoie
Niki
un truc.
Niki Lauda, il a les drapeaux à Dramier, il est trouvé derrière.
Oui, non, mais enfin, même en dehors de ça, enfin, quand même, faut pas non plus dire que Villeneuve n'a pas le droit de parler parce qu'il a pas le même panorama que les autres. La différence, c'est qu'avec Niki Lauda, même si c'est méchant et sévère, c'est toujours dans le contexte ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand il parle de Schumacher et qu'il tacle Schumacher, c'est parce qu'il est en train de parler de Schumacher. Alors que Villeneuve, il tacle Raikkonen en parlant de Massa. Non, mais faut faire attention à ce que tu dis, quoi. C'est tellement gratuit et c'est tellement méchant que, bah, forcément, il se fait attraper derrière, quoi. On passe à la suite, messieurs.
Bien sûr.
Et au dernier du podium à 5 places.
Oui.
Un article passionnant qui s'appelait « Quelle voiture possèdent les pilotes de Formule 1 ?» Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques à faire. Non.
D'Ambrosio n'est pas dans les pilotes ayant une voiture, mais apparemment, donc à part ça...
Je me rappelle.
Alors, j'ai plus complètement l'article en tête, mais ce qui m'avait sauté aux yeux, c'est que les pilotes ne soient pas plus corporate dans leur...
Il y a Vettel et Marc Weber, je crois qu'ils ont ils ont tous les deux une Infiniti.
Oui, Je dirais ils peuvent pas rouler en canette de Red Bull.
Oui.
Moi j'ai bien aimé Paul Di Resta, moi, qui n'en a pas parce qu'il considère qu'il en a pas besoin. Lui.
Oui, non, voilà, mais non, parce que lui il dit de toute façon autant les louer. Donc.
Ouais, moi j'ai bien aimé lui.
Il loue les voitures, limite il a pas tort.
Et Button qui a une collection impressionnante aussi.
Oui, oui. Qui a quand même réussi à vendre une Veyron, je crois, avec moins de 2000 km au compteur. Et c'est une deuxième. C'est-à-dire que le mec, il a fait quoi? Il a fait 500 bornes avec, puis il l'a vendu. Bon voilà, c'est le genre d'actu, vous voyez, c'est un peu embêtant. C'est pour ça que je fais des actus à 5 places.
C'est sympa parce que c'est un peu à côté, mais en même temps, on parle de bagnole.
Oui, voilà, donc
pour un sport de bagnole,
il y a pas forcément grand-chose pour nous à redire derrière. Donc c'est pour ça que je fais des podiums à 5 places.
Oui, puis bon, pendant la pause, faut aussi un peu remplir.
Oui, c'est vrai.
Parfois.
Voilà, c'est vraiment, voilà, pour le coup, c'est le genre d'article qui vient très bien à la pause. Voilà, c'est l'été. Tiens, quelle voiture ils ont.
Alors d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse et remercier tous ceux qui ont lu et voté pour le fait marquant des années 2000, puisqu'on vous a concocté avec Fab une série d'articles sur le fait marquant des années 2000. Et donc voilà, on voulait vous remercier parce que c'est une série qui a plutôt bien marché. On était très contents. On pensait pas que ça serait autant lu, puis ça a été vraiment très bien lu. Vous avez été régulièrement au rendez-vous. Les chiffres sont à peu près équivalents pour chaque article. Donc voilà, franchement, merci. Et je pense qu'on essaiera de renouveler l'expérience à l'avenir.
Cool. On va passer aux citations. Dans ce cas, alors Dino, as-tu une citation ?
J'en ai deux. J'en ai deux.
Bon. Moi, j'en ai une que j'ai dû retrouver en urgence puisque tu m'as niqué celle sur Kimi.
Ah non, moi j'en ai une sur Kimi aussi, donc ça m'a pas dérangé.
Non, c'est pas grave, j'en prends une autre. J'en ai trouvé une autre. Si nous étions coéquipiers dans une autre écurie, ce serait une lutte beaucoup plus propre, une véritable bataille. Et ah, d'après vous, c'est qui dit ça?
Ah merde, c'est qui a dit ça?
Et c'est une question qui a...
c'est Alonso.
C'est Alonso qui parle de sa rivalité avec Hamilton, voilà. Donc il dit, voilà, si c'était dans une autre écurie, peut-être que ça se passerait mieux.
Mais c'est ça. Non, mais c'est ça en plus. C'est-à-dire que vraiment, quand on y repense, il n'y avait pas forcément un problème entre les deux pilotes. Je pense que le vrai problème, c'était entre Alonso et l'écurie. Et que du coup, ça a envenimé la situation entre les deux pilotes. Parce que je pense pas que il y avait, je pense que si l'écurie avait mieux géré la situation, il n'y aurait peut-être pas forcément eu autant de problèmes.
Oui, puis je pense que la presse a tendance, aime bien ce genre de rivalité, a tendance à chaque fois en remettre un peu une couche. Je veux dire, la rivalité, c'était en 2007, on est en 2011, c'est bon, on peut passer quand je vois des articles où on parle encore de ça aujourd'hui en 2011, je me dis c'est bon les gars, vous avez rien d'autre à faire quoi. Je veux dire, ça a fait les choux gras de la en 2007. Et bon, oui, c'est bien d'en parler. Enfin, parce qu'en plus,
ça intéresse les gens. Ça revient trop souvent quoi.
Mais voilà, ils ont fait chacun dans leur côté d'autres choses depuis. Donc pour moi, on peut passer à autre chose.
Voilà. Bon, bah passons à autre chose alors.
Toi, Ben, peut-être.
Ma déclaration n'a rien de clinquant, mais c'est celle de D'Ambrosio qui a déclaré « Je ne rentrerai pas dans les détails et je ne citerai pas le nom de la société à propos d'une entreprise qui se serait engagée auprès de lui pour 3 ans. » Enfin, toute la durée, on n'est pas sûr, mais qui lui permettrait... La société a effectivement signé, ça on est sûr. Une annonce devrait être faite à Monza et ça devrait logiquement lui permettre d'assurer son avenir en F1, ce qui...
Est-ce qu'on sait a priori quelle société ce serait ou pas du tout?
On n'en sait absolument rien du tout. C'est une société belge, des sociétés belges qui sont assez solides pour financer un pilote de F1, j'en vois pas beaucoup. Moi personnellement, je miserais sur une société de télécommunications, donc en l'occurrence Belgacom en Belgique, qui en plus vient de perdre les droits télévisés de la division 1 de football de Belgique, donc qui à mon avis pourrait chercher un nouveau créneau.
Oh la vache,
c'est qui a aussi une chaîne de télévision. Donc étant donné que les Anglais l'année prochaine ou en 2013, je sais plus très bien, auront la F1 sur une chaîne payante, ils peuvent éventuellement se dire on pourrait pourquoi pas le jour où le contrat avec la RTBF se terminera mettre l'argent pour éventuellement avoir la F1. Voilà, c'est des pures spéculations de ma part, mais ça ne me paraît pas totalement absurde, mais de toute façon, confirmation dans 15 jours.
Tu te rends compte, Belgacom, ils ont perdu la première division.
ne te moque pas de la Jupiler League.
C'est ça. Quand même la seule.
Tu te rends compte un peu?
Au monde est sponsorisé par une marque de bière.
T'imagines-toi, la Ligue 1 Cronenbourg.
oui, voilà, non mais. Voilà. Non mais j'aime bien, c'est la stratégie.
Non mais c'est pas une vidéo. Oui non, au contraire. Ouais. Et toi Dino, c'est une citation.
Alors je vais dire la première. Après je citerai peut-être juste rapidement la deuxième qui était de Raikkonen. Et la première c'est une citation de Oksana Kosachenko, qui est comme vous le savez messieurs.
Le manager de Vitaly Petrov.
Tout à fait. Et qui a déclaré, le problème avec l'organisation d'un Grand Prix n'est pas seulement la construction d'un circuit, mais je suis vraiment concerné par la préparation du public. Et je trouve qu'elle fait une... Alors qu'elle est russe et qu'elle a un pilote russe, je trouve qu'elle fait une analyse assez pertinente du problème aujourd'hui globalement des Grands Prix. C'est qu'on va installer des Grands Prix de Formule 1 sans forcément qu'il y ait une culture la Formule 1. Il n'y a pas de magazine qui part de F1. La F1, je crois qu'elle est à peine retransmise
Les retransmises depuis que Petrov est là.
Ils avaient une version russe d'un magazine de Formule 1, mais qu'il n'y avait pas le financement nécessaire, donc le magazine a capoté. Donc elle dit voilà, il n'y a pas d'éducation du public, il n'y a même pas de formule de promotion. Il faut quand même rappeler que Vitaly Petrov a fait ses débuts en Lada Cup. Oui, avant de devoir quitter la Russie pour ensuite aller en Europe, je crois que c'est aux Pays-Bas qu'il est allé pour faire de la monoplace, mais sinon il a été champion ou il a dominé la Lada Cup. Le mec, il a dominé la Lada Cup. Normal, il était en courant. C'est la Lada Cup. Et ensuite, j'ai une citation de Kimi Räikkönen, c'est peut-être la même que toi, Shinji d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec un vrai dépassement. Tout ce que
non, c'est autre chose, mais bon, c'est pas grave. C'est celle que tu avais déjà citée, c'est pour ça.
Ah bon? Tout ce que vous faites, c'est vous rapprocher et appuyer sur un bouton, et le gars devant ne peut rien y faire. Je pense qu'ils essayent d'aller dans la bonne direction, c'est peut-être bon pour la télé, mais pour les pilotes, ce n'est pas si bien. Je dirais simplement, merci monsieur Räikkönen, puisqu'il parlait, comme vous l'aurez deviné, du DRS.
Comme quoi, on n'est pas prêt de le revoir.
Oui, entre autres.
Pour revenir sur la première citation de Dino, je suis assez d'accord avec, parce qu'on en a un peu évoqué la problématique dans les commentaires de la chronique du jour. c'est que voilà, il y a des, on va dans des pays où la culture de la F1 n'est pas forcément là. C'est comme en Inde, où le cricket est un sport hyper populaire. Si on veut une compétition de cricket en France, ou en Belgique, il y aurait pas grand monde. Enfin, je pense. On peut être surpris. Peut-être que les gens se diraient, tiens, une compétition de cricket, qu'est-ce que c'est? On va aller voir. Mais la deuxième année, je suis pas sûr qu'il y aurait autant de monde. Donc, je pense que c'est un des problèmes de la F1, c'est qu'il faut rester sur des circuits où il y a du public. Maintenant, concernant le public, et là, je vais peut-être mettre mon drive-thru.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Donc mon drive-thru ira par rapport au, à l'accueil parfois du public sur les circuits. On a beaucoup parlé de l'alternance par rapport au Grand Prix de Belgique avec normalement un futur Grand Prix de France. Parce que le Grand Prix est déficitaire. Maintenant, si, pour avoir fait le tour du circuit, je trouve qu'il y a certaines zones, en tout cas à Francorchamps, qui pourraient être améliorées. Certains chemins sont pas macadamisés, donc c'est vu le temps qu'on a eu, c'était dégueulasse. L'accès à certaines tribunes, c'est pas mieux, c'est de la boue. Je veux dire, pour le c'est-à-dire que le prix du ticket est justifié par le prix du plateau, donc le prix demandé par Bernie Ecclestone, et qu'il n'est pas justifié par la, parfois la qualité de l'infrastructure. Donc c'est-à-dire que les gens quand ils vont sur le Grand Prix, ils payent leur ticket en bronze, donc ils arrivent, ils ont pas de place tribune, ils ont rien. Bon, ça c'est normal, mais qu'ils aient quand même un minimum. Je trouve par exemle si tu payes un ticket bronze au Nürburgring, toutes tes pingues d'alope, c'est des gravats en béton. On pourrait envisager de faire le même genre de truc dans la ligne droite de Kemmel, qui est un grand talus avec une inclinaison correcte. On pourrait penser à faire ce genre de truc pour les spectateurs, et à leur donner envie de revenir et justifier le prix du ticket un peu plus. Je trouve que ça pourrait être une idée aussi pour voilà, ça, le prix du ticket n'est pas justifié par parfois les infrastructures d'accueil.
Et moi, ça me refait penser à une citation qui était en Malaisie, je crois, où les organisateurs du Grand Prix de Malaisie avaient dit on va faire des travaux de rénovation parce que bon, depuis le Grand Prix en 99, il y a des fuites dans les toits, etc. Et où le mec avait rajouté on va d'abord commencer par les endroits où se trouve Bernie généralement, puisque c'est, oui. Voilà, on va commencer par le paddock, puisque c'est là qu'on fait le truc. Donc encore une fois, c'est tout est pour le confort de Bernie et des écuries, et généralement le spectateur passe au second plan.
Bah oui, Bernie ou les VIP, mais le VIP si les gens ne viennent plus même en payant leur ticket en bronze, s'il n'y a plus personne autour du circuit, le VIP il aura plus aucun intérêt à venir sur le Grand Prix parce que ça fera plus bien d'aller sur un truc que où plus personne ne va. Ouais, j'étais un Grand Prix de Formule 1. Un Grand Prix de quoi? Mais non, mais c'est ça, je veux dire, il faut, les VIP, c'est bien, machin, ça, c'est, de toute façon, le VIP ne paye pas sa place. Le VIP est invité par des sociétés qui payent leur place.
Pensez à, par exemple,
le VIP, il va parce que ça fait bien.
Mais si, c'est pensé pour le VIP.
Ouais, bah oui, exactement.
Mais même, on en a parlé aussi au Canada, quoi, quand on voit le fait que la procédure s'éternise sous drapeau jaune et qu'on laisse les gens sous des tombereaux de flotte dehors à attendre et à se peler les miches, c'est qu'on a strictement aucune considération pour le spectateur. On pense qu'au téléspectateur que chez lui, mais les gens qui ont payé leur place, qui sont sur le circuit et qui font vivre le circuit, parce que c'est le ticket qui fait vivre aussi le circuit. Oui. Ces gens-là, eux, on les traite pas forcément du mieux possible.
Voilà, bah c'est oui, le circuit ne récupère de l'argent que sur les bénéfices des tickets. Tout le reste, c'est Bernie et une partie des équipes. Mais la grosse partie, c'est Bernie qui va dépenser 3,5 millions pour inviter les Black Eyed Peas au mariage de sa fille. Mais non, mais voilà. Je veux dire, c'est moi, je trouve ça un peu dommage. Parce que oui, le prix est cher et les circuits peuvent venir, bah, on y peut, entre guillemets, rien, c'est Bernie. Mais je trouve que parfois, quand t'es sur place, tu te dis, tout ça pour l'argent, il va où, quoi.
Puis c'est vrai que si on revient à la Russie, c'est vrai que le paysage entre guillemets que nous donne le manager de Petrov, quand on voit déjà ce que ça a donné en Turquie, c'est pas rassurant. Hein.
Mais le truc de la Russie, c'est que le Grand Prix de Russie va être fait pour qui ? Il va être fait, ça va être exactement le même type de public qu'on va avoir que ce qu'on a eu à Bahreïn, c'est-à-dire c'est les oligarques russes.
En plus, ça va être perdu là-bas à Sotchi, hein, bon, parce que
même des Sotchi, quoi. Sotchi, c'est une station balnéaire hyper huppée qui va peut-être devenir un peu populaire, quoi que j'en doute, avec les JO.
Non, attention, c'est même pas ça. C'est que avant les jeux, il y avait rien. À
oui, non, mais il y avait rien. Mais c'est clairement le truc, c'est que c'est sur le bord de la mer Noire. C'est allez, c'est la Riviera russe. Donc c'est la.
Non, mais c'est pire que ça. C'est devenu la Riviera parce que Poutine a pris si le coin, quoi. Oui, non, imaginez
mais...
le truc.
Non, mais je te parle pas du début. Je te parle que ce, oui. ce que ça va devenir. Ce que ça va devenir, c'est que ça va devenir un coin pour bobo. Voilà. Donc, enfin, c'est pas la Russie comme on va l'imaginer. Honnêtement, le public, il est déjà choisi d'avance. On sait déjà qui ce sera. Et c'est clair qu'aujourd'hui, la F1, elle est conçue pour les VIP, qu'elle est conçue pour le spectateur. Enfin, et encore, oui, encore pour le spectateur. C'est là aussi, ça rejoint les propos de Raikkonen. C'est qu'on pense même plus au plaisir du pilote. Je vois pas quel est le plaisir qu'ont les pilotes, que le DRS, quand on voit le plaisir qu'a pris Weber à faire son dépassement sur Alonso, où il a pas eu besoin du DRS, non. Le plaisir aussi qu'en a ressenti Fernando, qui lui aussi apparemment s'est vraiment fait plaisir avec cette manœuvre, était très content finalement, il avait l'air d'être très content de s'être fait dépasser. Mais voilà, enfin tu te dis les mecs aussi, ils ont besoin aussi de se sentir à un moment donné vivre vraiment pilote de Formule 1, quoi, de frôler avec la limite. Et aujourd'hui le DRS, aujourd'hui, voilà, le pilote et le spectateur sur place ne sont plus autant considérés qu'ils pouvaient l'être avant. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le téléspectateur, les VIP. Voilà, c'est ce qui commande la Formule 1 aujourd'hui. Et moi, évidemment, je trouve que le portefeuille de Bernie.
Ouais, moi, je trouve que la première partie de course à Spa a prouvé que on pouvait, quand on allait sur des vrais circuits, pas comme des circuits comme Abu Dhabi, on pouvait avoir des courses passionnantes. Rosberg qui passe Vettel dans la première ligne droite, bah il le fait, ouais. Ça l'intéresse. Il se fait redoubler après. Pourquoi? Parce que Vettel est très près. Parce qu'il a une voiture meilleure que la sienne et qu'il a le DRS. Le problème, bon, voilà, Rosberg aurait quand même pas résisté longtemps à Vettel, qui aurait trouvé une ouverture ailleurs parce qu'il y a des possibilités ailleurs. Mais pour moi, le DRS, surtout sur un circuit comme Spa ou d'autres circuits historiques et
on pourrait l'éviter.
Voilà, je trouve qu'on pourrait largement s'en passer.
Mais on peut pas dire. Enfin, c'est très variable en fait en fonction des circuits.
Ah mais d'abord, ça va être bien le DRS.
Ouais. Il fait pas de miracle hein, le DRS hein, quand.
C'est pas que ça facilite, parce qu'un dépassement n'est jamais facile, mais c'est que ça le gâche un peu.
Oui, c'est s'il y a une perte totale de challenge, c'est comme un peu plus loin sur le circuit à Rivage, où ils ont asphalté tout l'extérieur du virage.
Oui.
Là où Hamilton est sorti l'année dernière, et où du coup, bah tu alors que c'est un virage où fort d'office, tu sais que tu vas être exporté vers, enfin tu vas te retrouver à l'extérieur. Donc mais là c'est fais pas gaffe.
C'est purement le
c'est débile.
Ça, c'est, enfin, c'est, moi, je trouve ça idiot. C'est clairement le genre d'aménagement qui a été fait pour le confort et en aucun cas pour des problèmes de sécurité, quoi. J'ai pas le souvenir de gros accidents à Rivage, à part l'an dernier, la petite frayeur de Lewis Hamilton qui sort, mais comme tu le dis, voilà, les pilotes le savent qu'à cet endroit-là, il y a des petites bosses. Moi, c'est d'ailleurs l'un de mes virages préférés du circuit parce que.
Et dans ce cas-là, ils vont faire quoi? Ils vont mettre un banking sur les combes?
Oui, non, mais voilà, maintenant, on va retirer même dans les zones faciles et qui sont pas nécessairement dangereuses, ils vont retirer les bacs à sable pour faire une erreur, quoi.
Les combes, c'était aussi, c'était pas asphalté non plus avant. Maintenant, c'est asphalté avec des petites bosses pour quand même pas que quand ils coupent, ça soit trop facile. Mais avant, c'était du gazon. Et d'ailleurs, en parlant de zone asphaltée, là au Ricard, on va s'amuser, hein, au Castellet, il y a que ça.
Ah bah, ouais.
Mais là, au moins, elle pénalise, quoi, si tu veux.
Elle pénalise parce qu'il y a quand même des bandes plus abrasives que d'autres. Oui. Et visuellement, c'est beau.
Sur ce, on va passer à la course.
Oui,
au Calife. Et au Calife. Alors concernant la place du con, on ne va pas parler de Schumi parce que bon, il a pas pu vraiment se défendre pendant cette qualif.
Oui, mais heureusement,
on sait ce qui s'est passé parce que
heureusement pour lui.
Oui.
Ouais, alors je suis pas sûr que sans ça, il aurait eu un beau 20e anniversaire.
Je vais dire un truc, quand j'ai eu son truc, la première réflexion que je me suis dit, c'est oh c'est con quand même. Quitte à se foirer, il aurait pu être raccord, il aurait pu se classer 20e.
Oui, c'est vrai que ça aurait été beau.
Ça aurait été beau. D'ailleurs, est-ce qu'on sait parce que ils ont enquêté longtemps? Et qu'est-ce qui est arrivé à cette fameuse roue?
J'ai pas eu du tout d'information.
Non, il y a pas eu d'info. Hein.
L'explication qu'on a eue sur le direct, c'est que comme ils se sont tous un peu précipités hors des stands, ils auraient peut-être oublié ou mal serré le
apparemment, Rosbron a dit que c'était pas ça.
Mais voilà.
Bah, l'image, c'est l'impression qu'on a en tout cas. C'est vraiment que la roue est mal attachée et qu'elle part parce qu'à cet endroit-là, il y a aucune. C'est au fameux juste avant le fameux virage rivage. Il y a aucune raison de sortir à cet endroit-là. Il est bien passé dans le virage avant. Et il va s'engager dans Rivage, donc il y a vraiment aucune raison qu'il sorte là.
Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il fait quand même tout le Brétillon, la ligne droite de Kemmel, les cons, la source, enfin la source, la sortie des stands, il fait tout ça sans avoir problème de roues. Il y a quand même des passages où théoriquement les roues pourraient avoir envie de se faire la belle.
Ils disent que c'est cassé, alors que quand on voit la roue, on a l'impression, en effet, il y a pas de boue entre guillemets. Voilà, elle part toute seule. Ou d'ailleurs, ça veut dire que flipper parce qu'elle est arrivée vite.
Les suspensions ont l'air nickel, les freins, etc. aussi. Donc c'est vraiment la roue. On a vraiment l'impression que c'est la roue qui est partie pour une raison.
Oui, enfin, il part très propre, quoi. C'est-à-dire que t'as la roue qui.
Est-ce que c'est l'écrou?
C'est même limite. C'est même pas la roue qui se détache. C'est plutôt la voiture qui se détache de la roue. Parce que la manière dont c'est fait, c'est t'as la roue qui continue tout droit.
La roue est allée tout droit. Donc non, lui épargnera une place du pas méritée. Et alors normalement, au moment du classement, normalement la place compte. C'est Paul Di Resta, hein, sur Force India. Ouais. Pas terrible, hein. Bien pour une Force India, quand même.
Ce qui est étonnant, en plus, c'est qu'ils avaient montré de super bonnes choses et qu'ils se sont totalement foirés en qualification. Parce qu'ils étaient pas mal aux essais. Ils étaient même pas trop mal en qualif. Et ils se sont foirés aux essais. Alors, j'ai pas trop le souvenir de leur déclaration d'après qualif. Mais ils se sont tout simplement foirés, quoi.
Mais, donc, comme j'ai dit, par rapport au temps, c'est subtil. Mais j'ai envie de dire, on lui a pris sa place, du coup, entre guillemets. Hein, grâce à une belle pénalité de 5 places.
Elle était méritée, celle-là.
Méritée. Hein, grâce à notre cher Pastor, hein, qui était énervé ce week-end.
Il avait la rage.
Ah ouais.
Tu me diras, Pastor, qu'elle a la rage, c'est normal.
Que justement, Paul Di Resta est 8ème. Quand même noter, encore une fois, une qualif en Q2 pour la Lotus de Kovalainen. C'est quand même bien sympa de voir qu'ils arrivent. C'est pas la première fois, mais justement, c'est bien de les voir répéter.
Mais ils ont compris ce que McLaren n'a pas compris. Quand t'es le dernier en piste, oui. Tu fais des dans ce genre de circonstances, généralement.
En plus, c'est arrivé vraiment à la toute fin. C'est-à-dire que tout le monde était entre guillemets en train de remballer la Q1 et tiens, il est passé Kovalainen.
Tu sais, ça m'a rappelé comment ça s'appelle pour l'avant-goût. J'ai regardé quelques extraits de Grand Prix et il y avait le Grand Prix de Belgique 1994 et j'ai vu la fin de la qualification du Grand Prix de Belgique 94 où les mecs étaient déjà limite, les commentateurs étaient déjà limite en train de remballer pole position de Schumacher, voilà. Puis tout d'un coup arrive une autre Jordan avec Barrichello qui signe le meilleur temps et les mecs ils savaient plus du tout où ils étaient. Il fallait qu'ils cherchent leur classement et tout. Barrichello, il a vraiment la pole ou alors non, ça a été signé après. Et puis les mecs savaient même plus quoi dire parce que voilà, dans ce genre de conditions, bah le dernier en piste, le dernier à passer sous le drapeau à la mi, c'est souvent celui qui a le plus de bol.
Et donc alors, je vais pas dire celui qui n'a pas compris parce que lui sans doute l'avait compris, mais ses ingénieurs ne l'avaient pas compris. C'est ce pauvre Jensen, 13e, qu'on a vu. Alors énervé, agacé, enfin il était pas content dans son paddock en tout cas.
Oui, enfin en même temps il avait qu'à rester sur la piste.
Oui.
Ça à chaque fois, enfin je suis désolé de le dire à chaque fois, mais quand même merde, c'est quand même des champions du monde, même si les équipes ont des informations etc et qui pensent savoir bien faire, c'est quand même lui qui est sur la piste, c'est quand même lui qui a suffisamment d'expérience, lui dont on dit qu'il a tout le temps le nez fin quand il pleut, là il rentre par excès d'optimisme. Je veux bien qu'on accuse l'équipe, mais il a aussi sa part de responsabilité.
Bah c'est lui qui décide de rentrer ou non au final. Hein.
Oui voilà, c'est lui qui rentre. Alors c'est pas à lui de ressortir aussi, il va pas non plus forcer les mecs. T'imagines Button, non je veux y aller les gars. Mais voilà, s'il rentre, c'est à lui de discuter avec l'équipe en disant d'un côté, faut qu'on ressorte quoi, c'est pas possible. Il fera pas le meilleur temps, mais au moins essayer de jouer la Q2. Enfin non, c'était la Q1. Non la Q3. Putain j'ai du mal avec ce de Q. Mais voilà, c'est à lui de convaincre l'équipe. Alors après qui s'énerve, faut voir aussi s'il a essayé de convaincre l'équipe.
Alors à noter aussi quand même un joli tir groupé des Toro Rosso, parce que Buemi fait 11 et surtout Alguersuari fait 6. Pas mal du tout.
Buemi qui aura peut-être même pu faire la Q3 lui aussi, mais qui a eu des problèmes de trafic dans le dernier tour.
Ouais, il a fait une petite erreur aussi dans le premier secteur de son dernier tour. Voilà. Je crois qu'il... voilà, sinon les deux derniers secteurs étaient très bons, mais pour la course, il était très optimiste. Hein. Il a rappelé la Hongrie où il partait dernier et qu'après premier virage, il était devant son équipier. Donc très très optimiste. Au final, les deux Toro Rosso ont fait une mauvaise course, mais
pas forcément de leur faute.
Oui.
Non. C'est-à-dire qu'Alguersuari a bien été aidé par un certain Bruno S.
Oui.
Puis Buemi est tombé sur un Sergio P.
Voilà.
Même si Sergio P dit que c'est Buemi qui lui est tombé dessus.
Voilà. Mais
donc Perez qui fait 9. La deuxième partie entre guillemets entre la 5e et la 10e place, ça fait super bizarre de la Q3. Parce que bon, ça commence avec Rosberg. Ensuite, t'as un paquet. Et alors quand tu lis les noms à la suite entre guillemets, il y a c'est trouver l'intrus. Ça fait t'as Alguersuari, Senna, Alonso, Perez, Petrov. Quel est l'intrus?
Oui, c'est vrai ça. Quel est l'intrus? Deux Espagnols et un Suisse. Ah, c'est le Suisse alors.
C'est bien sûr. Alonso qui ne fait que 8. C'est bas pour Alonso, hein, quand même.
C'est encore fort en qualif. C'est mauvais timing, trafic. C'est dommage parce qu'ils avaient peut-être le potentiel, pas pour faire la pole, mais pour faire mieux. Et voilà, ça c'est.
Oui, mieux sans doute, oui, quand même. On parle de Ferrari.
Quand on voit la course que fait Alonso, on ne peut pas s'empêcher de se dire que s'il était parti un peu plus devant, il aurait peut-être pu avoir une autre stratégie. Ça aurait peut-être pu être un peu mieux.
Et donc je l'ai cité en 7e quand même, ce magnifique coup de Senna pour sa c'est pas ses débuts en F1, enfin si on peut dire que c'est un peu ses débuts en F1, ça dépend comment on considère la HRT.
Bah, c'est ses débuts avec la Lotus en tout cas.
Ah oui.
Oui. Ça c'est clair, même s'il a un peu roulé
en Hongrie, vendredi en Hongrie, il avait fait une ou deux journées, je crois, d'essai justement lors de l'évaluation d'Heidfeld en comparatif. Je crois même qu'il avait fait des demi-journées.
Ouais, c'est vrai qu'il avait roulé aussi à ce moment-là. Ouais. Mais bon, il n'a pas une connaissance de la voiture énorme.
Non.
Et bah, 7e, il a vraiment surpris beaucoup de monde, 7e en qualif.
Et c'était pas gagné, hein, parce que le vendredi.
Bah, quand il est sorti le vendredi matin, tout le monde a fait la réflexion. Ah, comme Petrov l'an passé. Derrière, Di Resta fait pareil, donc on a vu oublier Senna. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas forcément gagné. Et que voilà, en tout cas sur la qualif. Après, si on regarde un peu la course, c'est pas si mal que ça non plus. Il se plante au départ.
Il explique au départ qu'en fait, il avait été surpris par le poids de la voiture. Bon, faut aussi rappeler qu'il y a le changement de circonstances. Ils ont pas beaucoup roulé sur piste sèche.
Voilà.
Le poids de la voiture n'est pas le même. Les repères de freinage, etc.
En plus,
puis c'est Spa, quoi.
Voilà, le premier virage à Spa, c'est peut-être le pire premier virage de la F1, quoi.
Bah, c'est un bel entonnoir.
Ah ouais,
c'est clair. Donc voilà. Après, il a une pénalité en plus, je crois. Donc il finit 13e. C'est pas si mal. Je veux dire qu'il avait quand même un bon rythme en course.
Continuons d'abord sur la qualif. Et quand même, moi, j'ai envie de dire, c'est encore une fois une Red Bull, c'est encore une fois Vettel. Mais il faut qu'il aille les chercher, quoi. Parce que vraiment, on y a cru, hein.
Elle lui met quand même 5 dixièmes à Hamilton.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, mais sur des conditions de piste quand même... c'est là où aussi c'est difficile de déduire, parce que faut quand même dire que les mecs ont très peu roulé sur le sec, ils se retrouvent sur des conditions de piste changeantes. Donc il y a aussi les réglages qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que, par exemple, la Red Bull n'était pas plus typée pluie ou... c'est vraiment une vraie loterie. Moi. Honnêtement, ouais. Sur la qualif comme en course, c'est une vraie loterie ce genre de circonstances, parce qu'ils ont fait tous leurs essais sur la flotte. Ils ont eu quoi, 5-6 tours maximum sur le sec lors des essais libres 2. Donc il n'y a pas suffisamment de repères pour les réglages. C'est d'ailleurs tout ce qui a créé problème sur le blistering, là, le cloquage des pneus Red Bull. Voilà, donc c'est vraiment...
D'ailleurs, les vidéos de Pirelli m'ont bien fait marrer, parce que pour expliquer, ils ont fait une vidéo pour expliquer un peu ce qu'est le blistering. Et vous voyez, quand vous voyez le pneu en réalité, les petits bouts de gomme qui se dégradent, c'est genre des tout petits bouts, hein. C'est jamais. Et ce qui est très drôle dans les animations, c'est que les bouts de gomme qui disparaissent, ils sont gros comme votre poing. C'est-à-dire que t'as l'énorme morceau, tu dis non mais il pourrait pas rouler comme ça si ça faisait un trou pareil. Ça m'a fait rire, voilà.
Mais donc voilà, je pense qu'il faudra vraiment attendre Monza, si les conditions le permettent. Monza, ça devrait être un meilleur révélateur. Quoique même encore, c'est pas nécessairement un circuit qui plaît à la Red Bull. Il faudra peut-être plutôt voir. C'est ça qui est terrible, c'est qu'à chaque fois on se dit voilà, faudra voir peut-être Singapour, on sera peut-être un peu plus révélateur.
Ouais.
Mais là malheureusement, l'écart, oui, il a dû se battre. Maintenant, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte là, Ken, Aspa, c'est pas nécessairement non plus un circuit qui est idéal pour la Red Bull. Enfin, il y a de longues pleines charges. Malbranche s'est amusé à nous le dire tout le week-end qu'il y avait l'équivalent du circuit de Barcelone
oui,
en pleine charge sur le circuit de Spa. En même temps, c'est un peu normal, il fait 1,8 km de plus. mais donc voilà, c'est pas non plus vraiment le circuit qui lui convenait le mieux. Même en course, hein, c'est très difficile de pouvoir lire la performance de chacun, tellement les erreurs de réglage, le fait qu'ils pouvaient même pas changer les réglages de la qualif à la course, alors que la qualif s'est déroulée sur le sec, enfin sur le gras mouillé, et la course sur le sec, quoi. Donc c'est
Alors à noter que c'était la 24e pole position pour Vettel, la 32e pour Red Bull, la 187e pour Renault en tant que motoriste, à une moyenne de 232,824 km/h. On va passer à la course, et au top 10.
On n'a même pas parlé de l'accident de...
Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle de,
on est blasé.
De cet accident ah.
Non, non.
Donc rappelons, on va dire que Maldonado a eu 5 places et Hamilton a été réprimandé. C'est comme les Pokémon, hein, il les collectionne, les réprimandes Hamilton.
Mais je pense que c'est... bon, clairement, honnêtement, Maldonado, il fait totalement con sur ce coup-là. Je vais pas le comprendre. Maintenant, c'est vrai que si on cherche un peu le contexte, j'ai envie de dire, malheureusement, Hamilton commence un petit peu à payer la facture de tout ce qu'il a pu faire par le passé. Il y a le dépassement de l'arrêt de bus qui est viril, qui est pas dramatique, hein.
Mais non, mais il y en a qui fait remonter à Monaco, hein.
Mais non, pour moi, Maldonado va complètement chercher, en tout cas, pas le contact, mais intimider Hamilton suite à l'accident dans la dernière chicane du circuit, où c'est vrai que c'est un peu musclé, mais en même temps, voilà, Maldonado fait une petite erreur. Hamilton en profite pour s'infiltrer parce que lui, il doit être à ce moment-là dans un tour rapide. Et voilà, quand on regarde la façon dont les pilotes rentrent dans les stands, ils rentrent dedans au dernier moment, ils plongent, et le pilote qui est derrière et qui lui continue sur la piste, ben, il se retrouve quasiment avec quelqu'un qui lui coupe la route, alors que le type est déjà devant à la base. Donc, je dis, on a vu bien pire, ça a été viril. Ça reste de la course automobile, hein, ils sont pas là pour enfiler des perles. Et voilà, après on voit très très clairement, même à la source, que Maldonado est très très près d'Hamilton et que derrière, bah, il va se mettre à côté pour lui dire, mon gars, je suis encore là, quoi.
Oui, c'est ça, surtout, c'est qu'il est très rapide derrière Hamilton et tout d'un coup, quand il est à côté de lui, il est plus rapide.
J'ai même eu l'impression qu'il allait lui rentrer dedans à la source, pour être honnête. C'est juste derrière lui.
C'est le seul mec quand même qui dépasse un mec, mais quand il est à côté, il se met à sa vitesse de croisière.
Là, pour le coup, je trouve qu'Hamilton est totalement...
Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'automatiquement
derrière...
C'est
Maldonado qui est fautif.
Sur le site, automatiquement derrière... alors moi, c'est vrai que j'ai toujours cette fâcheuse habitude de vouloir chercher les causes profondes. Donc j'ai commencé à évoquer le fait que, il y avait le truc à l'épingle. Et j'ai dit, ce que je continue de dire, c'est que je pense sincèrement que Lewis commence à payer son comportement parfois un peu rude envers ses camarades en piste. C'est terrible parce que il y a plus la possibilité d'avoir un débat serein et paisible sur Hamilton, et c'est vraiment dommage, quoi, parce que le pilote le mérite, et parce que ça pose aussi des questions intéressantes sur qu'est-ce que c'est qu'un pilote, etc., sur les limites du pilotage, tout. C'est vraiment là, c'est des questions que j'aime aborder, mais aujourd'hui on peut plus les aborder parce que on a deux camps qui sont totalement cristallisés. On a les anti-Hamilton qui détestent Hamilton, et dès qu'Hamilton il a un accident, clac, c'est de sa faute, on réfléchit même pas, et on a les pro-Hamilton qui il est trop beau, il est trop fort, il a le droit de faire tout ce qu'il veut parce qu'il dépasse lui et qu'il fait l'action, donc c'est le meilleur.
Moi, ce que je trouve dommage aussi avec Hamilton, c'est que, t'as évoqué un peu le problème tout à l'heure, c'est qu'en plus de la question de savoir si parce qu'il s'appelle Hamilton, parce qu'il est champion du monde, parce que ceci, parce que cela, il peut se permettre ce qu'il veut, il y a aussi le problème qu'il soit noir. Et du coup, si tu es trop violent à le critiquer. Oui, bah lui il a rappelé aussi.
C'est ça, c'est terrible.
Et ça ne fait qu'accentuer le problème, et je trouve ça dommage de rajouter une touche de racisme qui n'est absolument qui est complètement débile, qui n'est absolument pas le propos. Il pourrait être ce qu'il veut, ses manœuvres seraient jugées de la même façon, en tout cas en ce qui me concerne, et ceux qui le jugent différemment à cause de ça sont stupides. Donc voilà, je trouve dommage que ce genre d'argument arrive dans le débat alors que...
Alors tiens, justement, j'en profite pour faire mon drive-through.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Alors, je vais faire un petit drive-thru sous forme de jeu. Je vais vous demander de deviner mon drive-thru. Je vais vous donner un acronyme à vous de me dire ce qu'il signifie, hein. Et après je vous expliquerai mon drive-thru, quoique vous verrez que je pense que vous le comprendrez dès le départ. Donc l'acronyme que je cherche, c'est le JRDA. Qu'est-ce que c'est que le JRDA? Sans chercher sur Google, messieurs. JRDA, J comme José, R comme Rod, D comme Dédé et A comme Alison. Je peux même vous aider, là, je vais vous dire RDA, c'est Racing Driver Association. Maintenant, trouvez ce que veut dire J.
Japan?
Non.
Junior?
Non. Remet, non.
Sinon, pour information, si tu tapes JRDA dans Google, tu tombes sur Juan Rondo Dance Academy. Hein, donc ça ne nous aide absolument pas.
Oui, voilà. En même temps, c'est vrai que, en même temps, ça me rassure qu'on le trouve pas facilement sur Google. Donc il manque plus que le J, hein. C'est le Racing Driver Association. Enfin, c'est même la Racing Driver Association. Donc un mot en anglais. En français, ça serait l'association des pilotes de course. Enfin, des pilotes de course.
Et en français, ça serait aussi commencer par un J.
Oui, ça commencerait aussi par un J.
La joyeuse.
Non.
La Jensen RDA.
Non, non. En français, il y a 4 lettres. En anglais, il y en a 6. Et ça vous rapporte des points au Scrabble en anglais.
Oula.
Donc, il n'y a pas de W, tout ça, parce que si c'est de l'anglais.
Oui, non, mais ça rapporte des points en français. C'est le barème de points en français.
D'accord.
Parce qu'il y a un W.
Ah.
Pensez au thème qu'on a abordé, hein. J'ai pas mis mon drive-through au milieu comme ça, sans raison.
La Jewish.
La Jewish. C'est l'association des pilotes des pilotes de course juifs.
Oh là là.
Alors,
je
vais essayer d'être très prudent parce que c'est toujours des sujets très difficiles à aborder. J'ai découvert cette nouvelle, c'est que il y a une association de pilotes de promotion de pilotes juifs qui va s'inaugurer là prochainement, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, sur le circuit de Silverstone. Voilà, donc il y a un grand gala et compagnie. Et leur objectif, hein, je suis allé sur leur site internet, je vais vous lire leur objectif. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un drive-through, c'est quelque chose qui m'a gêné. Leur objectif, c'est: avec la création de l'association des pilotes de course juifs, nous ferons tomber les nombreux obstacles entourant le sport automobile et valoriserons un jeune talent au sommet de la course automobile avec l'objectif de trouver un champion de F1 juif dans les 5 prochaines années. Alors, c'est un peu le même problème que celui que j'avais eu avec Lewis Hamilton à Monaco, c'est-à-dire que je trouvais pas forcément nécessaire de rappeler qu'il était noir, alors que justement, ce qui était formidable dans son histoire, c'est que il a pas nécessairement eu l'ascension d'un pilote pour ses couleurs, il a pas été choisi pour ses couleurs, ni nécessairement discriminé par ses couleurs, en dehors des insultes racistes qu'il y a eu après l'affaire McLaren justement en Espagne.
Non, mais si je peux me permettre, quand il est arrivé en F1, on a quand même fait tout un pataquès.
Oui, on l'a dit.
Parce que c'était le premier pilote noir.
Oui, on l'a dit.
Déjà, moi, à l'époque, ça me gênait, parce que qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit noir?
Oui,
la seule chose qu'on lui demande, alors on s'en fout à la limite qu'il soit anglais, on s'en fout qu'il ait les cheveux longs, la seule chose qu'on lui demande, c'est d'être rapide. Tu vois,
oui, on l'a dit, parce que c'est vrai que ça a malgré tout une valeur historique, mais ça a pas non plus, on le voit très rapidement, ça a pas non plus été le seul argument de vente, ça n'était pas le seul argument de vente, c'était juste, on disait voilà, c'est un jeune talent, et en plus c'est le premier pilote noir, voilà, c'est-à-dire que c'était pas la seule raison qu'il mettait en avant.
Non, c'était pas la seule, mais c'est quand même souvent mis en avant quand même. À ce moment-là.
La force aussi de sa carrière, c'est qu'il avait réussi à faire oublier qu'il était un pilote noir. Et là, moi, ce qui me gêne honnêtement dans ce JRDA, je me dis, voilà, ils ont envie de promouvoir un pilote de Formule 1 juif. Automatiquement, quand on voit ça, quand on a une communauté qui prétend se mobiliser, parce que c'est un peu obscur ce qu'il y a autour, mais qui prétend se mobiliser pour promouvoir un pilote de la communauté, c'est qu'il y a un problème en Formule 1 d'antisémitisme. Bon, j'ai pas nécessairement l'impression non plus qu'il y ait un problème avec un pilote juif. Donc je me dis, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils s'unissent? Et c'est là où je trouve la démarche très gênante, quoi. C'est-à-dire que même si on peut pas dire que la Formule 1 soit un sport exempt de racisme, ça reste un sport majoritairement blanc, majoritairement catholique, mais je pense que c'est surtout une conséquence économique de l'évolution sociale du monde sur les 100 dernières années, où rappelons quand même que les noirs sont parmi les gens les plus pauvres et les blancs sont parmi quand même les populations les plus riches, voilà, et que les noirs naturellement dans le sport se dirigent plus naturellement vers des sports qui coûtent moins cher comme le basket, etc., qui peuvent se faire dans la rue plutôt que vers la Formule 1 qui demande malgré
tout le sport auto. Ça fait partie des sports les plus chers.
Voilà. Comme le golf qui demande un lourd équipement et un lourd investissement. Donc je pense que, je suis peut-être naïf, mais je pense que quand même la première raison qui explique qu'il y ait moins de minorités en Formule 1, c'est avant tout une raison socio-économique ancienne, d'opposition nord-sud, etc. Enfin, et vraiment, je me sens mal à l'aise, parce que du coup, j'en viens à me poser des questions sur la Formule 1 que je me posais pas avant. Voilà, qui est juif, qui est pas juif. Alors du coup, on se demande à dire, mais oui, mais alors, s'il faut un juif, il faudra aussi un musulman. Donc du coup, tu dis qui est musulman, qui est pas musulman.
La F1 n'a jamais eu pour objectif d'être représentative de l'ensemble, on va dire, de l'humanité dans sa diversité. l'objectif de la F1, c'est plutôt de réunir les meilleurs pilotes de la planète par leur talent.
Et c'est ça qui est gênant, je trouve, dans ce genre d'initiative, et qui est même dangereux, c'est que ça jette l'opprobre sur la Formule 1. Et alors, peut-être tout le monde, peut-être qu'il y en a qui auront lu ça et qui s'en foutent, mais moi, c'est vrai que par mes convictions personnelles, quand je lis ça, je me dis, bah oui, mais attends, si des mecs s'investissent autant pour promouvoir le prochain pilote juif, et ils disent vraiment juif, et sur le site d'ailleurs, ils précisent juif ou israélien, donc c'est vraiment qu'ils font la distinction, je me dis, c'est soit ils ont un problème, soit on en est venu dans un monde absolument infolant où faut que chaque communauté se sente représentée dans chaque sport. Donc faut qu'il y ait un juif en Formule 1.
C'est un peu ça.
Faut qu'il y ait un.
Moi j'ai l'impression que c'est un peu comme ça dans plein de trucs. Que chaque communauté, t'as l'impression qu'ils ont dans un autre registre. Moi, j'ai découvert dernièrement que dans une ville en Belgique, à Liège, ils allaient organiser du tourisme gay. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi les gays visitent des trucs que les autres n'ont pas envie de visiter? J'ai pas compris l'idée. Alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut arrêter de faire de la discrimination, de croire que telle catégorie de la société pense différemment que nous, a des autres envies que nous. Et on a l'impression, encore ici, avec l'initiative de promouvoir un pilote juif, qu'on sectarise finalement de plus en plus. Alors qu'en plus, enfin ici, dans le cas présent, toute conviction, enfin la problème de religion n'a rien à voir en F1. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait un pilote musulman? Il y en aura un qui arrivera un jour, tant mieux. Franchement, c'est pas le genre de truc qui me choquera, qui je me dirais pas tiens. Il gagne parce qu'il est musulman? Non, il gagne parce qu'il est bon, il est là parce qu'il est bon et qu'il a un support financier, parce que malheureusement c'est aussi ça. Mais moi je trouve que c'est un peu prendre le problème à l'envers. Au lieu de, la question n'est pas forcément de vouloir absolument mettre un pilote juif en F1, mais veiller à ce que le fait d'être juif ne l'empêche pas, un pilote qui un jour serait talentueux, d'arriver en F1. T'as un jeune pilote talentueux qui arrive et on lui dit, ah bah non, merde, t'es juif, donc tu peux pas venir.
Là ça serait grave.
Là ce serait un problème. Mais vouloir absolument dire, on va mettre un pilote juif en F1, on va mettre un pilote musulman en F1, on va mettre un pilote catholique, enfin ça y en a déjà sûrement plein, y a pas de problème. Mais on va mettre un pilote chinois, un pilote noir, un pilote machin. C'est stupide. Maintenant, veillez effectivement à ce que un jour on n'arrive pas à des situations où on dise ah ben non, tu peux pas venir en F1 parce que tu es tel machin. Non, ça ce serait pas normal.
Mais c'est,
donc ça
mais
il
c'est
faut veiller à ce que ça n'arrive pas.
Je trouve ce genre de groupement dangereux, c'est que on se met du coup à avoir des questionnements sur la F1, à se dire, est-ce que vraiment, vu qu'ils veulent promouvoir un pilote juif, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un problème avec les juifs en Formule 1? Donc du coup, on entre dans une sorte de paranoïa, ce qu'on disait tout à l'heure sur Lewis Hamilton, dans une sorte de paranoïa, et c'est vraiment pas sain pour la Formule 1 et globalement pour le sport, quoi. Et j'ai pas envie de savoir qui est juif, qui est quoi que ce soit, quoi. J'ai juste envie de savoir qui est bon et qui n'est pas bon. Et voilà, donc c'est un peu mon drive-through, envers ces personnes qui font ce groupement, mais en même temps, je suis un peu gêné de leur donner un drive-through. Parce que du coup, je ne sais pas si c'est justifié ou pas leur groupement. C'est ça qui est très gênant. Donc voilà, c'est un peu déstabilisant. Donc je voulais partager ça dans le SAV. Faire ma thérapie individuelle.
Non, mais c'est très intéressant. Au contraire, franchement, c'est entre guillemets une belle trouvaille que tu as trouvée là.
Ah, merci.
Allez, on va passer à la course au top 10.
Yes.
Ah, alors,
tu veux que je fasse le classement, je parie.
Voilà, ceux qui sont hors top 10.
Ah. Alors, nous avons. Que j'en trouve le classement. Nous avons en dernière position avec 0 points. Nous avons Ricciardo, donc dernier 0 points. 23e avec 1 point, Glock. A noter pour petite information que le vainqueur, que je ne citerai pas, a marqué 1254 points. Vous avez été nombreux à participer.
Beau score, très beau score.
Je crois que c'est nos deuxième meilleur score.
Ouais.
Ensuite, 22e, Liuzzi, 2 points. 21e, Buemi, 4 points. 20e, Kovalainen, 8 points. 19e, Perez, 18 points. Ensuite, il y a une petite marge quand même. D'Ambrosio, 18e, 33 points. La communauté belge a voté en force.
Ouais, c'est son meilleur résultat.
On a Alguersuari, 39 points, 17e. Barrichello, 16 points, 45e. Alors là, c'est très serré. On a Trulli, 15e avec 46 points. On a Di Resta, 14e avec 47 points. Il y a 3 pilotes en 3 points. On a ensuite Kobayashi, 13e en 57 points. Maldonado, 12e en 75 points. Et je crois malheureusement que sa course, enfin son mauvais départ, lui a coûté très cher, puisqu'il aurait peut-être été dans le top 10. C'est Bruno Senna qui est 11e avec 85 points, avec quand même une assez bonne marge par rapport au 10e.
Alors, on va noter parmi nos votes. Alors, Dino, tu as donné 2 points à Alguersuari.
Pour la qualif.
Ouais, bah on s'en doute.
Voilà. La qualif et la course, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il appréhendait le départ. Il a dit, je suis pas habitué à aller dans ce genre de, à être à ce niveau-là, donc le départ va être difficile, etc. Surtout dans ces conditions-là. Donc le départ va être piégeux. Et voilà. Ça a été pris dans le piège.
Ben, tu as donné 4 points à Maldonado.
Ouais, pour sa course, moi, parce que il part quand même pas très, parce qu'il marque des points. Arriver avec dans les points avec une Williams, je trouve que ça mérite des points dans le top 10.
Ça m'a étonné d'ailleurs quand j'ai vu ça, j'ai vérifié les classements, et c'est ses premiers points. J'étais sûr qu'il en avait marqué il y a pas longtemps, puis en fait non.
Et donc, à noter, c'est bien d'ailleurs que tu aies fait la remarque, en effet, je lui ai donné un point, tu lui as donné un point, Ben, tu lui as donné deux points, c'est Senna que nous on a noté, donc moi en effet, c'est pour la qualif, aussi un peu pour pareil. La course, même si bon il y a ce départ malheureusement qui gâche malheureusement sa course.
Mais c'est vrai je l'ai évoqué tout à l'heure, mais en regard de son mauvais départ et de sa pénalité qui suit, il finit 13e, c'est pas si mal.
Ah ouais,
j'ai pas analysé les temps autour évidemment, bien ça, mais il a quand même pas fait une trop mauvaise course. Donc à mon avis, sans son erreur, il aurait pu au moins terminer 7e, qui était sa place de départ, à mon avis.
Ah ouais, dans les points en tout cas, ouais, pas de
clairement,
soucis.
Ouais.
Allez, dans ce cas-là, on va passer à la 10e place. Il a marqué 6 points, donc en effet, il y avait quand même une petite marge avec Senna. C'est Petrov qui a marqué 18 points. Alors moi, je crois que je lui ai donné des points. Bah, je lui ai donné 2 points, donc c'est vraiment au classement. J'ai même hésité, à vrai dire. J'hésitais peut-être marquer 2 points pour Senna et 1 pour Petrov. Puis bon, finalement, comme Petrov a quand même fini dans les points, je préférais mettre 2 points à Petrov. Voilà. Je vous en demande pas plus, vous avez pas mis de points.
Mais c'est le pire, c'est qu'il fait pas nécessairement, il fait pas un mauvais week-end. Mais voilà, malheureusement, Senna était meilleur et on l'a quasiment pas vu. On a vu quasiment que Senna. En course, on l'a très peu vu. Il a un petit syndrome Rosberg.
Alors, on va passer dans ce cas-là à la 9e place, où ça va être aussi très rapide.
ça sent le mec que personne n'a mis ou un truc dans le
Exactement, il a marqué 213 points, c'est Sutil. Et en effet, personne ne l'a mis.
Ouais, il fait pas une mauvaise course, un mauvais résultat, Sutil, hein, mais voilà.
Dans ce cas-là, passons là encore de nouveau directement à la 8e place, où là, je pense que vous allez quand même un peu plus parler. C'est un pilote Ferrari. Non, ce n'est pas Alonso, c'est Massa avec 349 points.
Ce garçon est maudit.
Alors, moi je lui ai mis 4 points, tu lui as donné aussi 4 points, Dino. Et toi, Ben, tu l'as même mis 8 points.
Il a été bon qualif, devant Alonso et bien devant, pour le coup. Ça fait la deuxième fois consécutive, je pense. En Hongrie, il était déjà devant, juste devant.
Ouais, ça fait quelques courses qu'il a l'air d'aller
et
un
il
peu...
A quand même, il a quand même joué des coudes un petit peu quand Alonso lui passait.
Ouais.
Donc voilà, je me souviens, il retrouve un peu de mort dans le garçon.
Ouais, enfin, c'est vrai. C'est quand même fait bien bouffer au freinage.
Ah ouais, mais justement.
Ouais, parce qu'après, derrière, Hamilton est quand même passé aussi, mais il a joué des coudes un petit peu, pas longtemps, mais un petit peu. Et, moi.
C'était très joli, c'était très propre.
Oui, c'était très propre.
Pendant l'espace d'une quarte de seconde, on a pu croire que les deux Ferrari se disputaient une place. Un truc qui est pas arrivé depuis 20 ans.
c'est méchant. C'est vrai.
Il est pas encore arrivé souvent entre Alonso et Massa, en tout cas. La dernière fois, c'était en Allemagne, en 2010.
Ouais.
Ça a vite été réglé. Mais, voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir Massa un peu bagarreur. Donc,
Non, c'est vrai qu'il a fait, honnêtement, il a fait une très belle course. Peut-être même l'une de ses plus belles depuis le début de saison. Totalement gâché, par une crevaison, le pauvre, il crève. Il change ses pneus, il crève, quoi. Deux ou trois tours après, il est obligé de repasser au stand. Bon, voilà, c'est vraiment terrible. Parce qu'il était pas mal, hein. Il était parti, je pense, pour être juste derrière Fernando.
Même en Allemagne.
J'ai l'impression qu'il profite des erreurs d'Alonso, quoi. Là, il est devant en qualification. Bon, c'est aussi parce que les conditions sont là. Donc, on dirait, il faut faire le temps. Mais, bon, les conditions aussi sont là, voilà.
Oui, mais même, je pense que si Alonso était passé devant, il se serait retrouvé juste derrière Massa, donc
oui, voilà.
Ce qui n'était pas toujours le cas forcément non plus avant. Et même, c'est vrai, en Allemagne, il était pas mal non plus, et avec une stratégie pourrie de son équipe, il se retrouve de nouveau derrière Vettel, alors qu'il était devant, qu'il avait bien résisté jusque-là, et dans le dernier tour, à cause d'une bêtise... Il se retrouve derrière. Donc, quand il fait des bonnes perfs, il a pas de bol, soit avec son équipe, soit ici avec sa mécanique. Donc voilà. Donc,
c'est pour ça que il s'est bien rattrapé de sa crevaison parce qu'il faut quand même aller rechercher les places. Je crois qu'il ressort, il doit être 13e, il finit 9e devant Maldonado.
Il finit 8e, Massa.
Il finit 8e.
Devant Petrov.
Devant Petrov, oui.
Donc, il redépasse sur la fin pas mal de pilotes, sachant qu'il y a eu des écarts, puisqu'il n'y a pas eu de safety car entre temps, etc. Donc, non, c'est une belle fin de course, une belle course dans l'ensemble. Mais il y a eu mieux, c'est dommage.
Ouais. Et devant Massa, comme quoi Massa, il est mal noté, parce que Massa, bon, lui, au moins, il a fait toute la course. À la 7e place, j'ai envie de dire, il aurait fait toute la course, peut-être qu'il aurait eu des points, mais comme il n'a fait qu'un tiers de la course, c'est normal qu'il en ait 6. C'est celui qui ne regarde peut-être pas assez dans son rétro, c'est Lewis Hamilton, à qui j'ai donné 6 points, comme Ben, et toi, Dino, tu lui as donné 8 points.
Ouais, parce que c'est dommage.
Et au total, il fait 392 points. Et c'est vrai que c'est dommage.
Il fait un très beau début de course. Il pouvait vraiment prétendre. Encore une fois, t'as l'impression que Button fait un bon résultat, mais qu'Hamilton aurait pu faire mieux.
Et il partait mieux sur la grille, Hamilton déjà.
Oui, non, mais il partait mieux. Et puis, son début de course est un peu poussif. Il se fait dépasser par les deux Ferrari. Mais il est patient. Il s'est pas énervé. Il a saisi l'opportunité sur les Ferrari. Après, quand il sort des stands, il est le dernier à rentrer au stand. Il sort des stands. Il est très agressif. Il fait plusieurs dépassements dans la foulée. Mais il y a toujours le défaut de la qualité d'Hamilton, c'est qu'il est un pilote qui va de l'avant, qui est un attaquant, donc
qui regarde à droite mais jamais à gauche.
C'est un pilote qui il regarde tout le temps devant et il regarde très peu derrière. Et là, honnêtement, on a beau regarder, ils ont montré hier à dimanche F1 le ralenti, la loupe sur Hamilton, on voit bien que quand il le dépasse, il jette un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir qu'il est derrière. Et c'est sûr que c'est difficile de prévoir que Kobayashi va rester à côté de lui, mais quand même tu surveilles, enfin tu fais attention, tu jettes.
Kobayashi qui était resté très propre, droit sur sa ligne.
Tu prends une petite marge de sécurité et là voilà, il était déjà parti sur la suite de sa course. C'est le même reproche que je lui ai fait l'an dernier à Singapour sur Weber, c'est qu'il a fini son dépassement avant même qu'il le soit vraiment quoi.
Le dépassement ne s'arrête pas quand simplement on est à côté, non. C'est quand on est devant, bien devant.
Puis ces côtés très trompeurs, on parlait du DRS, ces côtés très trompeurs du DRS, il s'est totalement fait berner par son DRS, parce que voilà, il est arrivé au milieu de la ligne droite, dépassé Sauber en disant voilà, c'était fini, et puis, c'était pas fini, quoi, donc...
C'est ça en plus qui a rendu le truc impressionnant, c'est là où ça s'est situé, parce que c'est le point le plus rapide, non, au bout de Kemmel.
Oh oui, oui.
Ouais.
Surtout que le DRS, je sais pas combien ils étaient, mais...
Ouais, avec le DRS, ouais. Parce que sinon, Blanchimon, ça se passe quand même aussi à fond, mais avec le DRS, c'est clairement le
point, ouais, voilà,
là qu'ils vont plus vite.
Avec comme cette petite frayeur, bon, apparemment, il a pas perdu connaissance, mais c'est vrai qu'il bougeait pas.
Non. Il est habitué maintenant, hein, et c'est ce qu'il faut faire, il connaît la procédure.
Il était peut-être seulement choqué, mais il ne bougeait pas, hein. Franchement, je comprends, sur le coup, oula.
Ça a bien tapé quand même, hein.
Ah ouais, oui.
Mais il a assumé complètement la faute. D'ailleurs, c'est ça en plus qui fait qu'Hamilton mérite pas vraiment les critiques, quoi. C'est que derrière, vraiment, quand il y a des fois où il assume pas ses erreurs, mais non, quand mais vraiment déjà, il est fautif, là il était fautif, derrière il a dit, bah c'est 100% ma faute, voilà, je suis désolé.
En plus, on voit que c'est pas entre guillemets, demande, tu sais, parfois on demande au pilote de dire, ouais, tu dis rien, puisqu'apparemment, en fait, dès qu'on lui a montré les images, s'il avait pensé que c'était pas de sa faute, on peut supposer qu'il aurait été quand même bien énervé. Et en fait, là, pas du tout. Apparemment, il a regardé les images et il s'est bien rendu compte que, bon, bah, c'était un peu de sa faute. Enfin, en tout cas, que c'était un accident, que c'était pas la faute à Kobayashi.
Non, puis il y a aussi un truc, quand on repense à l'accident avec Maldonado, qui a d'ailleurs ramené sa phrase derrière pour dire que, ah, vous avez vu, c'est l'exemple que j'avais raison hier, il la recommence aujourd'hui. C'est qu'il y a une différence entre Maldonado et Hamilton, c'est que, malgré toutes les critiques qu'on peut faire sur Hamilton depuis qu'il est en Formule 1, Hamilton n'a jamais été méchant. Il n'a jamais eu d'acte véritablement méchant en piste. Il a été viril, il a été compétiteur jusqu'au bout de la limite de l'extrême, mais il n'a jamais été méchant. Je pense qu'il a été humain, mais jamais méchant. Là où Maldonado a peut-être été un peu trop méchant sur ce qu'il a voulu faire.
Ce qui fait que ce qu'a fait Maldonado n'était peut-être pas au final le truc le plus dangereux qu'on ait vu en F1, mais c'est peut-être un des trucs les plus choquants qu'on ait jamais vu. Parce que ça avait l'air délibéré. Et ça, c'est grave.
Bah, il lui ferme clairement la porte. Hein.
Voilà.
Enfin, il resserre bien sa trajectoire sur lui, il n'y a pas de doute. Hein. Il donne pas un grand coup de volant, mais c'est presque pareil.
Alors que c'est vrai que, bon, Hamilton, bah, oui, voilà, ouais. Il est agressif. Donc, bah, agressif, c'est toujours un peu au fil du rasoir. Parfois, c'est super bien. Et puis, voilà, quelque chose à rajouter sur le tiers de course d'Hamilton.
Non, moi je pense qu'il aurait pu aller titiller les Red Bull.
Ouais.
Moi, il aurait fini deuxième.
Parce que je pense que
la
McLaren était quand même performante sur le tracé, que c'est pas le circuit, même si les Red Bull font le doublé où elles étaient forcément le plus à leur aise, même si elles étaient pas complètement larguées, voire pas larguées du tout. Mais, je pense qu'ils auraient pu jouer les troubles faites, avec les Red Bull. Ou jouer avec les Red Bull. Pas avec les deux. Pas au point de gagner, mais, clairement, la deuxième place était clairement jouable.
Oui.
Dans ce cas-là, on va passer à la place suivante. C'est déjà la sixième place. C'est l'homme qui a exposé son quota TV visuel cette semaine. Ah, écoute, on l'a vu au moins... Oh,
oui, mais il a disparu aussi vite qu'il est apparu.
Ah ouais.
Ah non, il est réapparu vers la fin. Il manquait d'essence.
marqué, combien il a marqué? Il a marqué 610 points. C'est Nico Rosberg. Alors qui pour une fois, ça paraît presque dingue de le dire, c'est bien fait éclipser quand même par son coéquipier.
Mais on ne va pas rappeler que son coéquipier, il fêtait ses 20 ans de carrière, on a parlé que de lui. Même en point presse chez Ferrari, on a demandé à Massa et à Alonso le vendredi, je crois. On leur a parlé de Schumacher. Donc je veux dire, on a parlé que de lui. Rosberg, il avait rien à fêter ce week-end.
Donc Rosberg,
non mais,
je lui ai donné 8 points et vous lui avez donné 10 points.
Ce qui est terrible avec Rosberg, c'est que même quand c'est pas les 20 ans de Schumi, on parle plus de Schumacher que de lui. Quoi.
On parle plus des mauvaises perfs de Schumi que des perfs des siennes. Ouais. Non, puis moi, Rosberg en tête dans le premier tour, voilà. Oh. Je dis, la dernière fois que je suis venu à Francorchamps, c'était pour la dernière victoire de Raikkonen.
Tu vois que des trucs historiques, toi, dis donc.
Terrible, hein. Mais non, mais voilà. Je savais très bien qu'il finirait pas la course premier. Bon, quand même lucide, un minimum, mais voilà.
Il fait un super départ. C'est vrai que c'est terrible parce qu'à la fin, il se fait dépasser par Schumacher. Bon, ils sont sur des stratégies différentes. Schumacher, il a des pneus neufs. Rosberg, il a plus de pneus neufs. Il fait déjà, quoi qu'il arrive, un bon résultat. Et puis, la radio qui grésille un peu. Même si la lutte était sympa parce que Schumacher, ça n'a pas été facile.
Ah, mais bah ouais, propre. Il a
voilà, donc c'était...
Quelque chose à rajouter sur Rosberg. Même dans... c'est terrible, hein, parce qu'on pourrait profiter du SAV pour redorer le blason de Rosberg et... Même pas.
Je clôturerai le dossier Rosberg en disant vivement qu'il ait une vraie voiture qui puisse lui permettre de gagner des courses. Parce que, voilà.
Mais qui sait, on voit que la Mercedes progresse. Alors, peut-être pas cette année, mais...
Oui, mais moi, ici, ils vont recruter encore 100 personnes. Je sens déjà l'excuse 2012 arriver. Oui, il faut que les 100 personnes s'intègrent dans l'équipe, blablabla.
Non, encore mieux, il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde.
Ouais, non, mais je sens l'excuse arriver, mais grosse comme une maison. C'est... Honnêtement, aussi bien pour Rosberg, parce que j'adore ce pilote, que pour Schaum, qui fera sûrement sa dernière saison en Formule 1, ce serait quand même bien qu'ils aient tous les deux une bonne voiture. Un, pour enfin faire des résultats, et puis l'autre pour partir sur une note positive quand même, parce qu'au vu de la carrière qu'il a, même si je suis pas son plus grand fan, je trouverais quand même dommage qu'il parte sur une mauvaise note, alors que quand il est parti en 2006, sa course au Brésil, le résultat en soi n'était pas extraordinaire.
La course est superbe, quoi.
Mais la course qu'il a faite était quand même une course de vieux briscard et des digne de son palmarès, tout simplement.
Allez, à la 5, on va passer à la 5e place.
Déjà ?
Eh oui.
T'as vu comment je provoque, j'ai dit.
Avec un pilote Red Bull, celui qu'il faudrait qu'en fait, il n'y ait pas de départ aux courses. Oui. Parce que si à la limite, il n'y aurait pas de départ, il fait de très bonnes courses.
Il faut aussi de très bonnes courses parce qu'il foire ses départs.
Ouais, enfin, je pense qu'il pourrait peut-être en faire des un peu meilleurs s'il ne les foirait pas. Parce que quand même, il les collectionne, hein, les départs foirés cette année. À tel point qu'hier, un dimanche F1, Montagny, il a dit qu'il allait enquêter. Parce que c'est bizarre.
Oui, bah oui. Bah, c'est quasiment systématique, quoi.
Surtout qu'apparemment, là, cette semaine, c'était pas le Kers. Il était bien au bon régime moteur. Enfin, comment il a fait pour se planter comme ça? Vous l'aurez compris, on parle de Marc Weber. Marc, qui a marqué 840 points quand même.
Et j'ai honte.
Tu as honte?
Ah ouais, j'ai honte. Non, sérieux, j'ai honte de mon top 10 juste à cause de ça.
Tu as honte. C'est vrai que tu lui as mis que 6 points. Alors que j'en ai mis 10 et que Ben en a mis 12.
Mais moi, j'aurais même mis peut-être sur mon podium, mais en fait, je dois...
Non, mais tu l'as noté, c'est pas comme Ben qui a oublié quelqu'un.
Ah, il a oublié Jean, oui. Ben. Pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, tu sais que ça me stresse. Non, mais c'est pour tout dire, c'est moi qui ai fait le résumé de la course. La première fois que je faisais le résumé de la course. Et c'est le dépassement de Weber, je l'ai un peu raté. Voilà, donc du coup, cherchez pas dans le résumé puisque je parle pas du dépassement dedans. Et donc j'avoue, je l'ai raté et j'ai ce que je fais très rarement, mais j'ai généralement quand je le fais, je fais des conneries. J'ai fait mon top 10 quoi une demi-heure après la course et c'est après j'ai revu les bouts de la course, j'ai revu le dépassement, j'ai revu dimanche F1 où ils font une magnifique loupe, ils montrent le dépassement qui est juste magnifique quoi et voilà, c'est voilà, j'aurais mis beaucoup plus haut si j'avais repensé à ce dépassement, mais bon.
Non, oui, Ben. Je veux dire quelque
chose. Moi je le mets 4, donc 12 points, voilà, départ loupé clairement, mais comme Dino l'a dit, c'est son dépassement. Voilà, oui. Parce que il faut y aller, même s'ils ont tous dit pendant tout le week-end que sur le sec ou le Raidillon, ça reste le Raidillon, mais ça passe facile à fond. À deux fronts dans le Raidillon, faut quand même y aller. Hein.
Ouais.
Moi, je me suis retrouvé au pied du Raidillon, enfin, je me suis retrouvé sur la piste après la course complètement par hasard, je me suis fait embarquer par la foule, je me suis retrouvé au pied du podium. J'ai fait tout le tour et je me suis retrouvé au pied du Raidillon. Et je peux vous dire que on lève la tête et on fait ah ouais quand même parce que c'est pas du tout, enfin si, déjà à la télé ou même quand on est sur place sur les abords, on se rend bien compte que ça monte. Mais quand t'es au pied du truc, tu fais « Ah ouais !» Voilà. Tu voudrais pas le faire à pied, quoi.
Ouais, non, voilà.
Donc c'est pour ce dépassement-là que je l'ai mis, moi je l'ai mis 4.
On passe à la suite ?
Oui.
J'ai la 4ème place. Et on va parler d'un pilote que j'ai mis, j'ai donné 15 points, que les gens au global lui ont mis 865 points, donc ça s'est pas joué de beaucoup avec Weber, qui en a mis 840, et c'est la personne que Ben a oublié, n'a pas mis.
Oh non.
Alors dis-nous, d'après toi, qui ça peut bien être?
C'est bon, c'est Fernando.
Oui. Mais pourquoi, Ben? Le renvoyant, je l'ai pas mis, Alonso. Non, mais moi, je trouve que Alonso, voilà, il se loupe un peu en qualif et
Oui, mais c'est la course qu'on juge, Ben.
Oui, mais il fait pas une course exceptionnelle. Il fait 4, voilà, c'est pas transcendant. Il y a eu des belles passes d'armes avec Alonso, mais sans vouloir être méchant, en général, il les a perdues contre Weber, contre Button.
Non, tu vas,
il a gagné sur Massa, allez, d'accord. Mais moi, il m'a pas marqué, Alonso. Sur ce Grand Prix-ci, il m'a pas marqué. Il fait pas une mauvaise course, hein, mais c'est vrai que je l'ai pas mis dans mon top 10.
C'est vrai qu'il est passé un peu à côté. Puis, alors, c'est terrible parce que j'ai l'impression qu'il a été totalement prisonnier de sa stratégie. C'est-à-dire qu'ils ont, semble-t-il, pas vraiment autant eu le même problème que Red Bull. C'est un peu compliqué, le problème que Red Bull, hein, le problème du blistering. Donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus, je vais juste vous inviter, pour ceux qui n'ont pas pu lire l'article qui s'intitule c'était quoi déjà le titre, Adrian Newey s'explique sur la polémique Pirelli ou un truc dans le genre, publié lundi, alors là on a toute la version, pourquoi le blistering et compagnie, donc voilà. Mais ils ont semblé moins souffrir, donc il a ravitaillé, il fait parmi ceux avec Massa qui ont changé les pneus de qualification le plus tard possible. Je crois que ça doit être 7e ou 8e tour. Donc du coup, quand la safety car elle rentre au 12e tour, c'est ce qu'a dit Alonso, il dit à ce moment-là, ça sert à rien qu'on rentre, quoi. Les pneus, ils ont 4 tours et ils sont frais comme des gardons, ça sert à rien qu'on rentre pour en changer. Sauf que du coup derrière, comme ils veulent pas forcément faire trop de temps sur les médiums, et que en même temps Vettel a ravitaillé, donc du coup il a déjà fait un arrêt, enfin il s'est déjà économisé un arrêt, ils se disent faut qu'on passe en deux arrêts, donc du coup ils sont passés en deux arrêts, il fait un deuxième relais mais absolument monstrueux avec les pneus tendres, je sais pas, il dure facilement 18 tours avec les pneus tendres. On se dira, il y a Weber qui a fait 28 tours avec les médiums, et il finit avec les médiums en même temps que tout le monde, et bah là les médiums, la Ferrari apparemment les digère beaucoup moins, mais c'est cool. Moi, je me suis dit, bah voilà, ils vont passer en trois arrêts, ils vont faire deux beaux relais en pneu temps, puis ils vont finir, allez, 5 tours en médium, ça va être bon. Il va y réussir à compenser son arrêt au stand supplémentaire. Bah non, que dalle. Donc j'ai vraiment sorti prisonnier de la stratégie, prisonnier du fait de pas être passé par la safety car. Voilà, c'est un peu dommage. Ils sont passés à côté du week-end.
Mais d'ailleurs, Vettel est rentré juste au moment de la safety car et Alonso a hésité. Il y a eu un moment où il était derrière, il a hésité à rentrer. Il a pas fait, il aurait peut-être dû. Il aurait été dans mon top 10 déjà.
Bah sur le coup, ouais, je pense que sincèrement, même avec les 4 pneus, il aurait pu, parce qu'il aurait pu faire comme ce qu'a fait Vettel derrière, se calquer sur Vettel. Au moment où il rentre plus, il a entre guillemets un arrêt de plus à faire que Vettel, sans bénéfice de la safety car, donc il est obligé de tenter un truc d'endurance pas possible avec les pneus tendres. Voilà, c'est très difficile, surtout qu'on a vu des écarts quasiment jusqu'à 4 secondes dans les tours entre pneus tendres, pneus médiums, à différents degrés d'usure. Donc voilà, c'était très difficile de faire une course. Et c'est ce qui lui coûte le podium, ça c'est sûr.
Mais c'est clair que le podium était jouable, clairement.
Ah oui, il était jouable. On va passer au podium du SAV dans ce cas, justement, puisqu'on parle de podium. Transition. Et déjà, rappelez-vous tous les noms qu'on a donnés. Réfléchissez bien. Je dis ça, je dis rien.
Attends, tu me colles le doute là. Ça va.
À la 3ème place, il a marqué 1062 points. Et vous allez voir, ça s'est pas joué à grand chose. Je lui ai mis 18 points. Dino, tu lui as mis 15 points. Ben, tu lui as même mis 25 points. C'est le pilote McLaren, c'est Jenson Button. Button qui donc récupère sur la fin la 3ème place. C'est dommage quand même cette mauvaise qualif, non?
C'est dommage, mais en même temps, quand on regarde aussi, c'est aussi sur ça qu'il gagne son podium, parce que c'est pareil pour Schumacher. Mauvaise qualif, ils sont en dehors du top 10. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent les pneus médiums. Ils commencent en pneus médiums. En plus, petit bonheur à la chance, il se fait détruire son, alors là où ça passe très chaud, ils ont montré les images hier, il se fait détruire son aileron avant et son rétroviseur par les débris de la voiture de Senna.
Pour les gens qui n'ont pas vu dimanche F1, ils ont montré cette image qui est hallucinante, hein.
Oui, là, il y a un bout de l'aileron, mais vraiment un gros bout de l'aileron, un flap. Apparemment, c'est le flap supérieur de la R31 de Senna, qui lui passe, mais qui lui rase les cheveux. Même s'il a le casque, ça lui a frôlé les cheveux, quoi.
C'est-à-dire que, alors, vous imaginez, vous avez peut-être remarqué pendant la course qu'il n'avait plus son rétro droit. Hein. Et bien en fait, pourquoi il n'avait plus son rétro droit? C'est parce que le flap a carrément découpé l'aileron. C'est-à-dire qu'il l'a pas arraché, non. C'est-à-dire que le flap est arrivé vraiment de mon vertical, et il a découpé l'aileron, enfin le rétro. C'est-à-dire qu'en effet, tu dis que ouais, si le flap il passe 5 cm un peu plus à gauche, c'est le casque qui se le prend.
Ouais.
Ils ont même osé dire hier dans Dimanche F1 que s'il se le prend sur le casque, en comparaison, Massa et le ressort, c'est que dalle. Ils l'ont dit, hein. Je sais pas
oui.
Si ils l'ont dit, hein.
Si ça a coupé le rétro.
Ouais.
C'est vraiment un dans le casque. Long, hein. J'ai l'impression vraiment que c'est la partie du côté plus les petites ailettes qu'il y a sur le dessus. C'est pris vraiment ce côté. Et même ce qui est impressionnant, c'est que ça se voit parce qu'il fait un léger écart avec le volant. Et c'est là où on voit la vitesse. Et que quand il fait le léger écart, le truc, il est déjà 3 km derrière. Mais donc du coup, indirectement, c'est pas assez chaud, mais indirectement, c'est son coup de bol parce que il rentre pour retirer les pneus médium et là va finir la course avec les pneus tendres, faire des relais avec la McLaren qui fonctionne nickel avec les pneus sur ce genre de température parce qu'il faisait froid, plus Button qui a cette qualité extraordinaire de rallonger ses relais. Honnêtement, à partir de là, c'est une remontée fantastique là où les autres vont devoir chausser les médiums, vont devoir durer plus longtemps avec leurs pneus tendres, etc. Donc c'était un peu plus compliqué. S'il est dans les 10, il part comme tout le monde en pneus tendres, la stratégie elle est plus la même, c'est beaucoup plus facile. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est dommage sa qualif en résultat brut. Maintenant, c'est aussi dans la qualif, c'est dommage depuis le début de saison parce qu'on voit bien dans les qualifs que le mec qui part au-delà de la 10e place, parfois il peut jouer un coup s'il est malin et s'il a une bonne voiture. Quand on voit la remontée de Schumacher et la remontée de Button, c'est aussi en partie grâce à ça.
Ouais, bah moi je l'ai mis premier, un peu pour pas mettre Vettel. Et puis je me suis dit que la remontée de Button était quand même beaucoup plus sympathique à regarder, que ce soit à la télé ou même en bord de piste, que la course de Vettel, donc je l'ai mis premier. Voilà. Mais en me disant que c'est vrai que c'est quand même bête qu'il soit parti si loin, je pense que s'il avait fait une meilleure qualif, c'est quand même Hamilton, et il aurait pu aller jouer avec les Red Bull, et peut-être leur mettre un peu plus de pression qu'il aurait pu faire qu'en fin de course, ils auraient vraiment été, sur les dents avec leurs pneus, ce qui était quand même déjà très limite. Adrian Newey a eu très très peur. Il était très très content de voir les deux voitures à l'arrivée. Donc voilà.
À la deuxième place, il a marqué 1068 points. C'est joué à 6 points près quand même, cette deuxième place.
Ouais.
Il est allemand.
C'est moi d'ailleurs.
Que je regarde. Moi, je lui ai mis 12 points, Ben 15 et toi 18.
Oui, oh, c'est moi alors.
Il est allemand. Il a la vingtaine, mais sauf que lui, c'est la vingtaine de sa carrière, hein, c'est pas son âge. j'ai halluciné en voyant le classement. Jamais je n'aurais cru voir Schumi au top 10 aussi haut.
Enfin, en tout cas, il l'a mérité quand même.
Ah, il l'a plus que mérité.
Il fait une belle course sur son tracé fétiche, voilà. Non, mais, en plus, bon, c'est, pour ses 20 ans, je l'ai peut-être un peu remonté en mettant troisième. Parce que je me suis dit, sinon, dans les trois premiers, je vais mettre les trois du podium à l'arrivée, donc c'est pas très original. Mais voilà.
Donc quoi, cette espèce de surplus de motivation, comme tu l'as dit, Ben, on a parlé que de lui pendant tout le week-end, à croire que ça a eu un effet, quoi.
Oui, puis en plus, il finit pas mal, il fait une belle course, et en plus, il a fini devant Rosberg.
Oui.
Ce qui n'arrive quand même pas souvent.
Même si Rosberg a eu des, entre guillemets, problèmes d'essence. Mais bon.
Ah, oh, vous êtes médisant. Oh.
De toute façon, que ce soit vrai ou pas, si c'est pas vrai, en même temps, on s'en fout parce que au championnat, ça n'a aucune incidence pour ni pour l'autre. Et en plus, si c'est vrai, c'est quand même pas la première fois que ça arrive chez Mercedes.
Même s'il avait fini sixième, ça aurait quand même été exceptionnel, hein, donc, voilà.
Oui, mais là, le fait qu'il finisse devant Rosberg, ça fait un petit plus.
C'est vrai, un petit plus.
Sinon, on dirait oui, mais il est encore derrière Rosberg.
C'est vrai.
C'est vrai. Ouais. Non, tu n'as rien à dire sur ton grand amour passé, hein, parce que vous savez que maintenant.
Non, mais passé, oui, parce que je vois pas trop le sens à sa deuxième carrière, que j'appelle sa deuxième carrière. Je suis pas fan du Schumacher deuxième version, mais je suis fan du première version. Là, il a fait une super course. Moi, honnêtement, je l'ai mis devant Button. Pour la simple et bonne raison, c'est que contrairement à Button qui avait les cartes en main en qualification, Schumacher n'a rien pu faire en qualification.
Non, oui.
Voilà, il a pas pu se défendre, il est parti de loin, il a subi des événements et il nous a fait une superbe course. Là où Button fait aussi une très belle remontée, mais il est aussi un petit peu responsable capable d'avoir dû faire une remontée. Donc voilà, sinon encore une fois c'est historique pour lui, c'est son circuit. On remarque quand même que sur les circuits qu'il connaît bien, qu'il aime bien, il est toujours quand même là, quoi.
Oui.
Canada, il était là. Monaco, il est là quand il faut. Voilà, moi j'ai hâte de le voir à Monza. J'ai hâte de le voir à Suzuka parce qu'à chaque fois, il est là, il fait des choses. Je trouve que il y a quand même des signes encourageants et c'est vrai que j'aimerais bien le voir dans une bonne Mercedes l'année prochaine pour pouvoir le revoir au moins une fois sur le podium. Moi, ça me ferait vraiment super plaisir.
Par contre, l'idée d'avoir changé la couleur de son casque.
Oh, il est trop beau son casque.
Non, bon, d'abord je le trouve immonde parce que je trouve de la même façon que j'avais trouvé celui d'Alonso qui était dans les mêmes couleurs, immonde à Monaco.
Ah non, Alonso c'était pourri. Ça n'avait pas plus, été. Mais là c'était beau.
Je trouve que on avait tendance à le confondre un peu avec Rosberg.
Ah non, mais rassurez-vous, Rosberg. Oui. Non mais Rosberg va rechanger de casque.
Donc, ah voilà. Bon?
Oui, oui. Alors si vous avez si vous allez sur Twitter, il a un compte Twitter et il a mis la photo apparemment pour l'année prochaine. Il a mis la photo de son projet de casque. Donc c'est la même structure, hein, sauf que il y aura plus le, vous savez, le casque de Rosberg, ça fait comme une déchirure. La différence entre le gris et le jaune. Et là en fait, ce sera juste droit. Voilà. Ce sera beaucoup plus classique, ça sera un peu plus propre. Là, c'est avec son casque qui fait un peu crado. Mais en même temps, c'est très original.
En même temps, le gris aussi, gris et jaune.
Ah, mais c'est surtout le côté déchirureur qui fait grunge, quoi. Bon, là, il aura un casque un peu moins grunge. Il fait tout à l'envers. C'est-à-dire que quand il était très propre sur lui, Rosberg, il avait un casque un peu grunge. Et là, maintenant qu'il a la barbe qui pousse, il a les cheveux courts, qu'il se grungise un petit peu, il ferait un casque un peu plus standard. Mais bon, si vous avez Twitter de Rosberg, vous verrez.
Il a pas de barbe, il a trois poils de duvet.
Oui, c'est vrai.
Il est moche. Parce que je suis en train de voir le casque, il est moche. Donc c'est tout jaune avec toujours la barre Monster et puis le bas c'est gris avec Nico en jaune, c'est très moche.
C'est bon, déjà son casque honnêtement est pas superbe.
Et déjà le gris et le jaune, je trouve que c'est pas très.
En tout cas, il est très identifiable. Ouais. Là, c'est vrai que le style devient beaucoup plus classique. Ça manque un peu de. Bon, c'est toujours très sobre, mais c'est très classique.
Quelque chose à rajouter sinon sur la course
faire
de Schumi.
J'informe les fans de Fan F1 sur Twitter que je vais retweeter tout de suite l'image du casque de Nico Rosberg. Voilà. Et donc si vous n'êtes pas encore fan,
il faudra que vous remontiez au
tweet. Il faut absolument le faire.
Non, mais il faudra que tu le retweetes mercredi.
Oui.
Oui, mais je retweeterai ça mercredi. Voilà. Je sonnerai l'application du SAV et je vous retweeterai l'image de Nico Rosberg, l'image de mes favoris, l'adresse. Ça, vous savez tout. Et je vous retweeterai ça pour en temps utile. Voilà.
Ça pourrait faire un bon article, ça, quand même.
Casque de Rosberg.
Mais il est moche. Moi, je le trouve très moche. Enfin bon, voilà.
Quelque chose à rajouter sur la course de Schumi?
Bah, s'il pouvait nous en faire une comme ça tous les week-ends, ce serait
bien. Ah oui, c'est sûr. Oui. Alors, on va passer au vainqueur. Enfin, est-ce qu'on va en parler longtemps en même temps? Je l'ai mis premier, Dino l'a mis premier, tu l'as mis deuxième.
Ah, que t'es descendant pourrisse en enfer, que tu pourrisse en enfer, que tes membres pourrissent et tombent.
Il a fini premier avec 1254 points. Ouais, ben, vous savez qui c'est, de toute façon, c'est toujours lui, enfin, presque. Mais c'est
non,
souvent
non, non, je suis désolé, ça faisait trois grands prix qu'il avait pas gagné. Je veux pas faire mon chieur, mais quand même, merde.
Oui, non, mais ça faisait pas encore assez longtemps, tu vois.
Il a réussi à battre les McLaren, je trouve que c'est un exploit, voilà.
Oui.
Avec sa petite Red Bull, il a réussi à battre McLaren, voilà.
Non, mais je suis content parce que j'ai eu du nez, souvenez-vous, il y a un mois, je vous avais dit, vous allez voir, au Grand Prix de Belgique, boum, retour de Vettel et Red Bull. Qu'est-ce qu'on a eu, doublé des Red Bull.
En même temps, tu dis ça à chaque Grand Prix, tu dis.
Non.
Oh, arrête, tu dis ça.
Non, 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 je ne l'ai pas dit à chaque fois.
Oh, une fois sur trois.
Mais c'est clair que l'optimisme affiché par, notamment McLaren après la Hongrie, était un rien excessif.
Oui, oui. Ah, puis ils se sont tous mis, hein, c'est pareil, ça m'énerve. Même Ferrari, ouais, peut-être le championnat, on peut y croire. C'est... Alors, il faut...
Même Weber a mis son petit grain de sel en disant que la domination de Vettel était finie. Mais tout ce que je vois, c'est que Weber est toujours derrière. Hein.
Oui. Et puis ils sont bien derrière. Hein. C'est...
Il peut plus le perdre, le titre. Soyons francs. Il peut
Non, mais je crois que c'est un score qualifié.
La question, c'est même plus est-ce que oui ou non, c'est quand.
Parce qu'en plus, il faut tenir compte aussi du fait, c'est que l'écart qu'il a sur Weber, faut surtout regarder, c'est l'écart qu'il a sur le troisième. C'est cet écart-là qui va compter, parce que Weber, même s'il est mathématiquement pas champion, mais qu'il y a que Weber qui peut lui chipper le titre, c'est foutu, quoi. C'est...
Non, ouais, Japon... Ça paraît pas mal, le Japon.
Ah, puis c'est un circuit qui lui réussit très bien. Ça serait beau.
Je préférerais le Japon que la Corée, excusez-moi.
Sinon, après, c'est, on a assisté, j'ai envie de dire, quasiment à une course classique de Vettel.
Quand je, ça m'énerve un peu quand je lis, je crois que c'est Bilot qui a mis ça sur le site, quand je lis sans doute la victoire qui mérite le moins, ça m'énerve, la victoire qui mérite le moins. En plus, généralement, c'est les mêmes qui disent que ah, on peut pas dire qui mérite ou qui mérite pas son titre, Kimi. Alors tu vois, donc, ça m'énerve quoi, qui mérite le moins. C'est peut-être pas forcément la plus brillante, mais il faut quand même aller la chercher. Il a été la chercher avec en plus des petits problèmes, des petits soucis, des petites inquiétudes. Bah, il fallait le faire, il l'a fait et bravo à lui.
7 victoires hein, cette saison.
Oh, on les compte plus.
Oui, non.
Allez, dans ce cas, on va passer au classement. Donc, au classement du SAV, Vettel est toujours devant, 222 points. Derrière, c'est serré, puisque Alonso à 165, Hamilton 163, Button 159 et Weber par contre 150 seulement. Au constructeur, Red Bull 372, McLaren 322, Ferrari 239. Notez que Mercedes passe les 100 points avec 116 points.
Bravo.
Écoute, eh hey, oh.
Ah non, c'est bien.
Dans l'autre classement, Vettel 259 points, Weber 167, ça fait 92 points d'avance. Ah, donc c'est 3 victoires et puis ouais, une 3e place, quelque chose comme ça. Alonso 157, donc il a 102 points de retard. Donc par rapport à ce que t'as dit, ça fait 4 victoires. Button 149 et Hamilton 146, c'est les seuls qui peuvent encore mathématiquement être champions. Chez les constructeurs, Red Bull 426, eux c'est 3 victoires d'avance qu'ils ont. McLaren 295 et Ferrari 231, et c'est pareil, c'est les seuls à pouvoir être titrés. On va passer au fait marquant. Et donc souvenez-vous...
Ah, mon heure de gloire.
Bon,
oui, oui. Oui, mon heure de gloire, on va en discuter. Mon heure de gloire.
Quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Hongrie 2011? Vous avez été 46 à voter, on vous remercie. De même, on remercie ceux qui ont voté pour le top 10. Est arrivé 3e avec 12 votes, 26,09%. Je ne me suis pas endormi devant le Grand Prix de Hongrie.
Et qui sait qui avait raison, hein? Qui sait qui avait raison que le Hungaroring est un super circuit qui réserve toujours des magnifiques courses, que personne ne s'endort jamais devant le Hungaroring? Eh ben voilà, c'est Bibi qui avait raison.
Mais comment il arrive à récupérer le truc
J'ai honte, mais non.
15 votes, 32,61%, la moitié du Grand Prix sans publicité.
En plus, je finis dernier devant, derrière des propositions de merde. C'est vraiment dire que les gens n'y croyaient pas.
Et enfin, premier, 41,3%, le dernier fait de gloire de Nick Hedfeld. Hedfeld oui. Met le feu à la course.
Nick, si tu nous écoutes, c'est pour toi.
Ouais, pour toi, ouais. Et donc, Dino, tout fait de gloire te permet d'avoir le premier choix.
Oh oui, oh mince, oh. La remontée de Schumi pour ses 20 ans. C'est le cœur qui parle.
Donc ensuite, c'est Ben.
Ah, j'aurais bien dit aussi la remontée de Schumi.
Dommage, hein, c'est le fric.
Mais bon, je sais pas. Donc, normalement, je vais mettre le dépassement de Weber sur Alonso. Parce que c'est quand même... Il y a eu des dépassements dans un Grand Prix, mais à cet endroit-là, faut quand même avoir ce qu'il faut dans le pantalon pour y aller.
Je vais dire Hamilton qui devrait regarder son rétro-gauche.
Ah là, tu joues sur les anti-Hamilton.
Sinon, tu pouvais mettre le carton de Senna au départ aussi. C'était bien, ça.
J'ai hésité. Mais...
C'est plus court aussi.
Nous vous proposons donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Belgique? Vous aurez le choix entre la remontée de Schumi pour ses 20 ans, le dépassement de Weber sur Alonso, ou bien Hamilton qui devrait regarder son rétro-gauche.
Sinon, il va y avoir plus aussi. Fait marquant de la... Ah non, pas tellement de la course.
Ben, il lui faudrait 15 faits marquants, en fait.
15 faits marquants. Sur ce, on va passer au concours.
Ah oui, oh oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Donc, le concours Top Opposition, nous vous rappelons que vous aviez un mois pour répondre à une question ô combien difficile proposée par Gleben, et qui était la suivante. Quelle est approximativement, mais pas trop, la longueur du trajet entre le Hungaroring et le circuit de Spa en passant par Milton Keynes? Et donc?
Alors, moi j'ai regardé sur Mappy, hein, je dis déjà, hein, et alors, bizarrement, alors, c'était, il, par contre, quand j'ai fait sur Mappy, ça passait par le centre-ville de Milton Keynes jusqu'à Spa, hein, mais pas Spa le circuit. Hein. Et je suis tombé sur, ce qui m'a étonné, c'est que je suis tombé sur 8000 km pile.
Ah ouais?
Ouais.
Ah ouais.
Et j'ai trouvé ça bizarre, tu vois. Oui. Bah non.
Pourquoi
t'es pile? Voilà.
Et donc nous avons eu 3 réponses. On avait demandé d'expliquer un peu les calculs, hein. Donc je vais te lire.
Ah oui.
D'ailleurs même toi, Ben, tu pourras un petit peu donner ton avis et aider Shinji dans sa décision, puisque tu n'as pas participé. Donc, alors, je te donne les trois réponses. En utilisant MAPI et en entrant les adresses des circuits disponibles sur le site officiel de la F1 et celle de l'usine de Red Bull, je trouve un total de 2449 km entre le Hungaroring et Spa en passant par Milton Keynes. Donc déjà, il y a quelqu'un qui, au moins, a su se servir de MAPI.
Lui. Oui. Attends, tu sous-entends que je suis pas me servant de MAPI?
Non. Elle était bizarre, cette fin de phrase. Ensuite, nous avons...
De MAPI, hein, je précise bien. Emma de PY.
Ensuite, nous avons... Quelle question? Pour répondre à la question, j'ai d'abord cherché ce qu'était Milton Keynes. J'ai découvert que c'était une ville anglaise où siège l'usine Red Bull. Une fois trouvé ce renseignement, je suis allé sur le site Via Michelin, deuxième source, afin qu'il calcule la distance. Donc j'ai trouvé que la distance était d'environ 2343 km. Enfin, les mecs sont pas d'accord. Enfin, je crois. Et la dernière réponse, c'est Hungaroring Milton Keynes, 1850 km. Donc il nous envoie la source à côté. Hein. Milton Keynes, Spa, 610 km. Donc si mes calculs sont bons, ça nous fait 1850 plus 610 égale 2460.
Bon, d'accord, les gars, je sais pas me servir de ma piste.
Mais bon, on est censé chercher pendant ces 3 semaines sans SAV. Alors j'ai regardé ce que ça donne à vol d'oiseau. Hungaroring, Milton Keynes, 1514 km, à peu de choses près. Milton et Spa, 500 km, à peu de choses près. Ce qui nous fait un total de, même le calcul est faux, ce qui nous fait un total de 1514 plus 600. Alors je sais pas si c'est 600 ou 500 qui est bon pour Milton Keynes, Spa. Et donc un total à vol d'oiseau de 2114 km à vol d'oiseau. Voilà. Tout ça pour aller voir d'infâmes Red Bull, Burke, je préfère me gaver de moules frites en Belgique.
Ceci dit, je lui conseille d'aller bouffer des moules frites en France, s'il veut les manger à la côte, en tout cas, si on sent moins cher. Mais bon. Je dis ça pour ça, hein.
Donc, Shiji, est-ce qu'on départage sur les réponses? Il n'y a pas de...
Bah non, voilà, il n'y a pas...
Alors, je vous invite juste, parce que j'ai voulu vérifier de côté, vous faites Google Maps. Dans Google Maps, vous mettez comme première indication Hungaroring. Dans le deuxième, dans l'itinéraire, hein, bien sûr, vous avez fait itinéraire, vous mettez circuit Spa-Francorchamps, ça va trouver tout seul le truc. Après, ça va peut-être vous demander de cliquer pour préciser circuit, mais bon, c'est pas grave. Et puis en dessous, vous avez un petit truc bleu qui vous demande ajouter destination. Donc, vous rajoutez une destination. Et là, vous mettez... comment ça s'appelle? Vous mettez...
Milton Keynes.
Alors, c'est ça, il faut mettre Milton Keynes en deuxième et Spa en troisième. Et là, vous demandez à Google Maps de vous choisir le trajet à pied. Et là, vous allez voir, vous allez voir du paysage. Je ne dis pas plus, je tease un peu. Puis vous allez voir du paysage. Donc, bah du coup, on va départager sur les questions, Shinji.
Oui.
Alors, en prenant la vitesse d'un escargot de jardin, combien de temps lui faudrait-il pour faire un tour du circuit de Monza? Qui est le dernier pilote de F1 italien à être entré dans les points au volant d'une Ferrari à Monza? Et enfin, si un pilote avait participé à toutes les éditions du Grand Prix de Monza depuis 1950, qui est théoriquement impossible, même pour Michael Schumacher, quelle distance au total aurait-il parcouru? Là, ils ont aussi cherché des questions.
Ouais.
Bon, moi, si je devais choisir, je parlerais de celle de l'escargot, parce qu'en plus, il donne pas la vitesse de l'escargot.
C'est vrai que moi aussi, le coup de l'escargot...
Ouais, mais le dernier avec Monza, ça doit être très très chiant à calculer.
Non, mais par expérience, faut éviter quand même les trucs trop compliqués.
Bon, voilà. Hein. L'escargot, alors, comme ça,
l'escargot, voilà.
Le mec qui te...
Alors, je viens de faire le truc Google Maps, hein. En effet, vous aimez le monde de Nemo, vous allez aimer Google Maps.
Donc, on prend la question sur l'escargot.
Oui. Et si jamais un type t'envoie un mail en disant qu'il a calculé la vitesse d'un escargot dans son jardin sur 100 mètres...
Ah bah lui, il l'a d'office, hein.
Oui.
Et donc, nous allons faire une heureuse, Shinji. Une historique de l'émission. Ai-je besoin de dire
enfin
son nom?
Enfin.
Oui, enfin. Puisque c'est Maëlle qui remporte grâce à cette... Franchement, je lui ai même envoyé un mail pour le dire. Je pense que c'est l'une des meilleures questions qu'on ait jamais reçues. L'une des plus drôles. C'est en prenant... Donc pour le concours, attention. C'est en prenant la vitesse moyenne d'un escargot de jardin. Combien de temps lui faudrait-il pour faire un un tour du circuit de Monza, si on veut une réponse précise. Et donc, pour répondre, vous connaissez le principe, hein, vous allez soit sur fanf1.com, rubrique en plus, avec contact, vous choisissez le SAV comme destinataire, ou le plus simple, puisque vous nous écoutez, c'est savf1@yahoo.fr. Voilà, pour répondre, c'est simple. Vous nous fournissez la réponse à la question. Le mieux pour éviter les erreurs, c'est que vous nous fournissez directement le calcul que vous avez fait. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. On accepte bien évidemment les petites erreurs de calcul. Hein. Si l'ensemble se tient et justifie, ça va. Vous nous envoyez une question sur le Grand Prix d'après, ce qui sera donc le Grand Prix de Singapour, avec la réponse à côté, hein, pour nous aider à savoir la réponse, qui parfois nous aide.
Oui.
Et voilà. Et je rappelle, hein, donc le but du jeu, c'est que vous avez tous à chaque fois vous gagnez à votre prénom sur un papier pour un tirage au sort pour un cadeau en fin de saison de la valeur exacte. Hein, on va essayer d'arranger pour trouver la valeur exacte de ce que nous a rapporté le guide du SAV que vous pouvez trouver sur le site thebookedition.com.
Et si vous collectionnez les porte-clés, c'est un bon plan, mais pas beaucoup plus. On va passer à la prochaine course, justement.
Ah oui. Attention!
Attention!
Ah là là, qu'est-ce qui pourrait faire que j'aille ou que je n'aille pas à Monza? J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider.
Bien sûr, c'est normal. Mais qui pourrait t'aider?
Ah, rien de mieux qu'un Belge pour m'aider à aller en Italie.
Bien sûr.
Allez, la Belgique t'écoute, Ben.
Alors, les 7 bonnes raisons pour aller à Monza.
Ça va. Il a choisi sa bonne raison pour aller à Monza, c'est bien.
Oui.
On peut faire l'inverse, tu aurais pu faire les 7 bonnes raisons.
Oui, je sais, mais j'ai pris 7 bonnes raisons. Voilà, j'étais de bonne humeur, donc je me suis dit, allons-y. Alors, en 7ème position, c'est que c'est la dernière course européenne. Donc, après, si vous voulez avoir un grand prix, il faudra faire quelques kilomètres. Même avec, même sans Google, avec ou sans Google Maps, ça fera, vous verrez du pays. La 6ème, c'est que c'est tout près de l'aéroport de Milan, donc je suis très pratique. C'est pas loin.
C'est même très accessible en train aussi, donc,
Ouais, non, c'est pas mal. Puis il fera peut-être beau, hein, contrairement à Spa où il a fait dégueulasse, et donc c'est bien pour prendre le soleil, en tribune, ou pas, hein, ça peut être bien, vous serez bronzé en venant. Faut en profiter, donc ça c'est 4ème bonne raison, avant qu'il disparaisse, on sait jamais, Bernie s'attaquant au Grand Prix européen et historique, pourquoi pas sauter Monza.
Non, tu vois, Monza c'est trop important. La Belgique c'est un petit pays de merde, ils sauvent pas le Grand Prix, mais Monza c'est trop important.
Ouais, mais bon, il fallait que je remplisse mon top 7, hein. Donc voilà. La 3ème, c'est pour ne pas faire mentir Nicolas Sarkozy qui a déclaré que l'Italie était la destination préférée des Français.
Ah là, regarde le Belge qui a plus gouvernement depuis 442 jours, 443 jours maintenant, et qui nous fait des leçons sur notre président de merde. Tu gardes ton gouvernement de merde, on garde notre président de merde, merde. Mais non, je suis pas de gauche, mais non, c'est pas ça.
Je ne critique pas, je dis qu'il faudrait surtout pas le faire mentir, ce serait dommage.
C'est vrai.
La 2ème, c'est que Vettel ne gagnera peut-être pas, hein, on sait jamais. On peut toujours rêver, mais ça peut arriver, autant être là. Hein.
S'il y a bien un endroit où ça arrive d'arriver, c'est là.
C'est bien là, ouais.
Et puis, il y a un 3ème, c'est que Grand Prix de Ferrari, donc déjà aller sur un Grand Prix, c'est toujours une bonne expérience et une bonne ambiance. Dans le fief de Ferrari, ça risque d'être encore plus chaud. Voilà.
Ouais.
7 bonnes raisons d'aller à Monza.
Tu m'as donné envie d'y aller.
Oui, alors pour Dino, il y a une super méga bonne raison, c'est de rencontrer des gens de Pirelli.
Ah, sinon, vos pronos, justement, pour cette course à Monza.
Alonso.
Pense à Milton, moi. Je pense que les McLaren ont quand même un très très bon moteur. Ce qui va jouer
Ferrari sur un moteur de merde.
Non, mais le Mercedes est quand même le meilleur moteur du plateau. Donc, ouais. Vu que le Renault est pas forcément le plus puissant, c'est pas pour ça que c'est le plus mauvais. Hein. Il a d'autres avantages, mais je pense qu'à Monza, le Mercedes devrait bien marcher et que non, la McLaren, s'ils font pas de bêtises, ils devraient pouvoir jouer avec les Red Bull.
Faut que Ferrari sauve sa saison. Et là, si pour sauver sa saison, il y a plus 36 000 façons. Pensez même pour l'image, pensez au nom de la voiture, quoi.
Oui, en plus.
Voilà, cette année, c'est...
Ah, tu veux dire qu'il y aurait peut-être un complot pour que Ferrari gagne?
Bien sûr.
Ceci dit, si Ferrari gagne, ça justifie ma première bonne raison d'aller à Monza.
On arrive à la fin de cette émission. Déjà, merci Ben de nous avoir accompagné ce soir.
Mais de rien.
Tu es notre première invitée internationale.
Oui.
Et
tu es rentré dans l'histoire.
J'espère que j'étais à la hauteur, au moins.
C'est une autre histoire. On laissera les auditeurs en juger. Non, c'était très bien. Plus tu nous as apporté ce petit côté live. Tu vois, encore 15 ans et le SAV, on le fait directement sur circuit. Wow. C'est la première étape, quoi. On fait du SAV avec des mecs qui étaient sur le circuit. C'est fort.
La classe, hein.
Ouais, carrément. Allez, sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous nous écoutez.
Oui.
Et sur ce, comme d'habitude, on se quitte sur ces quelques mots que qu'on a de plus en plus de mal à comprendre.
Hein. Bah là, c'est mal barré, c'est de la poésie belge alors. Je voudrais rendre un vibrant hommage à la poésie belge, à la grande culture belge, hein, qu'on mésestime, qu'on sous-estime ou qu'on ignore volontairement, puisque c'est ce proverbe, enfin cette citation qui vient d'on ne sait où, peut-être est-ce une frite qui l'a dit un jour en sortant de la friteuse. Elle a dit: si tu as les nerfs en boule, songe à la bouilloire, elle boue et cela ne l'empêche pas de chanter.